on délibérera, on votera sur ce point in fine, mais je vais passer donc au point suivant, qui est celui sur le budget primitif 2016. Alors, le budget primitif 2016, je rappelle que nous avons eu déjà deux débats, dont un qui s'appelle le DOB sur ce thème, et maintenant, vous avez donc la présentation définitive du budget. Monsieur Toulouse.
Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je tiens à remercier les services pour la qualité, la clarté, la pertinence des documents et des informations qui ont été données, dans un souci, année en année, accru de transparence dans la gestion municipale. Je pense que maintenant, et là, tout le monde a les informations. Donc, le budget 2016 répond aux quatre objectifs fixés lors du DOB, à savoir maintien de politique publique ambitieuse, investissement pour le territoire, recours à l'emprunt limité au strict nécessaire, taux d'imposition à changer, et cela pour la sixième année. Et ce, malgré le contexte difficile pour le budget des collectivités locales, avec la baisse des dotations de l'État, dont nous avons déjà beaucoup parlé. Il fallait faire des choix, nous les avons faits. Cela se traduit par un plan d'économie sans précédent, mais comme un plan d'économie n'est pas un projet politique, ces efforts sont mis au service des Messins, avec des politiques publiques renforcées, des investissements qui vont renforcer la qualité de vie à Metz et son attractivité. Alors qu'en est-il dans le détail? Pour le budget, la section de fonctionnement, sur les recettes. Donc globalement, les recettes de fonctionnement sont stables, avec une légère baisse. Les dotations de l'État accusent une baisse de 4,92 millions d'euros, soit moins 15,7%. Cet effet est légèrement corrigé par une légère progression de 1,07% de la DSU. La dotation de solidarité communautaire va baisser, elle, de 238 000 euros. Et les bases d'imposition vont très légèrement augmenter de 1% pour l'année 2016. Alors, pour pallier ces diminutions, nous avons accru nos efforts de recherche de financement extérieur qui augmentent globalement de 2,16%. Nous poursuivrons cet effort en 2016. Nous avons fait pression sur les délégataires des DSP, en particulier sur les délégations de parking, donc toutes ces délégations qui étaient, dont on a hérité avant 2008, ces délégations issues d'une bonne gestion, et nous avons réussi à en tirer 630 000 euros de redevances supplémentaires à partir de 2016. Un volume important dû à une meilleure fréquentation des équipements de restauration scolaire, de périscolaire et de petite enfance permet aussi d'accroître les recettes de ces services. Et à côté d'un plan d'économie drastique, nous avons cherché à augmenter nos recettes sans toucher à l'impôt et nous allons poursuivre sur cette voie. Pour les dépenses de fonctionnement maintenant, les dépenses de fonctionnement baissent de 0,75%. Nous avons réussi, et nous sommes une des rares collectivités à le faire, à éviter l'effet de ciseaux. Et nous augmentons notre épargne. L'année 2016 est la première année d'un plan triennal d'économie qui verra arriver, à l'arrivée pardon, nos dépenses baisser de 12,1 millions d'euros. L'effort pour 2016 est de 5,3 millions d'euros, ce qui est considérable. Ce plan d'économie porte en priorité sur nos manières de faire et sur le fonctionnement de l'administration. Pour chaque euro dépensé, nous nous sommes posé la question de la pertinence de cette dépense en regard du résultat constaté. Il porte en priorité sur notre fonctionnement, mais nous mettons aussi nos partenaires à contribution. Alors, quelles sont les principales mesures d'économie? Sur la réduction des dépenses, 1,54 million d'euros, avec une baisse notable des dépenses de déplacement, des frais de communication, mais aussi des efforts de rationalisation pour le service, différents services, les espaces verts par exemple, l'éclairage, l'entretien de la voirie. Nous nous adaptons au plus juste aux besoins d'entretien de la ville, quitte à bousculer quelques habitudes. Nous faisons des efforts sur l'optimisation de la gestion de nos équipements. La meilleure gestion des équipements de petite enfance s'est traduite par une augmentation de 46 places dans nos crèches, et ce, sans augmentation de dépenses en contrepartie. Simplement, une meilleure gestion. Le taux d'occupation augmente de 2% et l'accueil occasionnel augmente de 28% dans les crèches, ce qui est considérable, et se traduit aussi par une augmentation de recettes. Nous optimisons nos procédures internes. Alors, vous verrez dans le budget, c'est symbolique, une diminution faciale des crédits d'équipement pour les écoles, des crédits de fourniture scolaire. Alors, cette diminution en euros ne va pas se traduire par une baisse des quantités données aux écoles, mais simplement, on va définir en lien avec l'inspection académique ce qui pourrait être un équipement type dans les écoles, et nous allons doter toutes les écoles des mêmes équipements, ce qui peut se traduire pour nous par 40 à 50% d'économies sur l'année 2016. Sur le contrôle de la masse salariale, enfin, nous prévoyons 2,378 millions d'euros d'économies réalisées en 2005, ce qui correspond au non-remplacement d'une soixantaine de postes. Ces efforts sont possibles grâce à une réorganisation du travail des services, une redéfinition de certains postes, comme celui des concierges, par exemple. Idem avec les espaces verts, on simplifie les espaces, on réduit la diversité, on met en place, on accentue une gestion différenciée. Donc nous allons garder un haut niveau de service, mais simplement avec moins de personnel. Autre exemple d'effort, sur les dépenses d'intervention. Nous mettons en contribution nos partenaires en fonction de leurs possibilités. La baisse des subventions n'est pas et ne sera pas uniforme. Elle touche en priorité les plus grosses structures, celles qui ont des capacités d'adaptation. Le sport professionnel devra continuer à faire des efforts. Le PCC Metz en scène sera mis à contribution. Le CCAS aussi. Ce dernier s'est engagé dans une démarche d'économie et de réduction des frais de personnel qui permettra à terme de dépenser plus qu'aujourd'hui dans l'action sociale et moins dans le fonctionnement. C'est le but que nous recherchions. Je pourrais égrener des exemples tout l'après-midi, mais ça, finalement, ça n'aurait pas de sens. Vous l'avez compris, cette démarche d'économie est sans précédent et va se poursuivre en 2007, 2017 et 2018. Aucun sujet n'est tabou et chaque dépense sera évaluée par rapport aux services rendus aux médecins. Si celui-ci n'est pas suffisant, la dépense sera réduite ou la dépense sera supprimée. Je le répète, pour 2016, il s'agit d'un montant global d'économie de 5,3 millions d'euros sur un objectif de 12 millions d'euros à terme. Pour autant, un budget ne se résume pas à un alignement de chiffres, mais c'est un véritable projet politique qui est proposé. L'ensemble des efforts engagés permet de garder intactes nos priorités municipales. En 2016, les solidarités seront au cœur du projet municipal, avec un CCAS recentré et plus efficace, la sanctuarisation du budget de la culture et de l'éducation. Il n'y a pas de baisse des moyens sur ces budgets. Il y a même une légère augmentation pour la culture en 2016. On va poursuivre le plan d'adaptation des équipements municipaux. La police municipale verra, elle, ses effectifs maintenus sur l'année 2016. Des moyens importants, plus d'un million d'euros, seront dévolus à la politique de la ville et nous poursuivrons le programme de renouvellement urbain de Borny et entamerons celui de Bellecroix, le soutien aux copropriétés en difficulté par la même. Nous continuerons à soutenir les clubs sportifs et les associations socioculturelles qui verront leurs subventions globalement stabilisées. Le premier volet du plan d'économie triennale, combiné à un fonctionnement interne optimisé, a permis d'éviter l'effet de ciseau, d'avoir une croissance des dépenses inférieure à la croissance des recettes, de continuer à proposer un haut niveau de service aux médecins, de financer de nouveaux projets, le plus souvent par redéploiement. Et malgré cela, nous continuons à avoir une épargne importante, car nous l'augmentons d'un million d'euros. L'épargne de la ville s'élèvera à 11 millions d'euros en 2016. Cette épargne est une condition essentielle pour continuer à investir et à garantir notre liberté d'action. Maintenant, quelques mots rapides sur le budget d'investissement. Le budget d'investissement 2016 s'élève à 40,1 millions d'euros. Il est conforme à notre plan pluriannuel d'investissement de 166 millions d'euros sur le mandat. Pour 2016, il va nous permettre de maintenir nos objectifs. Premier objectif, préparer l'avenir des médecins en investissant dans des équipements qui renforcent notre attractivité, créent et fixent des emplois à Metz et stimulent l'activité économique. Je peux citer trois exemples. Le début de la construction du centre des congrès en 2016, le développement de TCRM Blida, qui est une véritable pépite messine labellisée French Tech, et qui a vu le jour en grande partie grâce à l'opiniâtreté de notre maire. Le renouvellement du plateau piétonnier maintenant, qui va entrer dans une phase active en 2016. Nous continuons à moderniser la ville. Deuxième priorité des investissements, investir dans les services publics de proximité. Nous allons continuer la rénovation des écoles. Le plan numérique des écoles, qui est unanimement apprécié par les enseignants, nous l'avons tous constaté dans les conseils d'école. Une nouvelle crèche à Borny, ça c'est intéressant puisque c'est symbolique, c'est l'exemple type de ce qu'il faut faire. Il faut adapter nos équipements municipaux aux besoins de proximité des populations. C'est ce qui a été fait à Borny. La médiathèque maintenant et le centre social de l'Agora, nous continuerons à réparer les injustices dont ont longtemps souffert les habitants de Metz-Nord. Comment on va financer ces investissements? Alors ces 40,1 millions d'euros d'investissement vont être financés d'abord grâce à nos efforts, 11 millions d'euros d'épargne nette réalisée, grâce à des subventions spécifiques, aux produits des amendes, à la cession de patrimoine non stratégique pour plus de 2 millions d'euros et à un recours extrêmement limité à l'emprunt pour 16,6 millions d'euros prévus en 2016 conformément à nos prévisions. À noter qu'au 1er janvier 2016, nous aurons un encours de dette de 318 euros par habitant, ce qui continue à nous placer de manière obstinée dans les villes les moins endettées de France. En conclusion, nous pourrons dire que le budget que nous vous proposons d'adopter pour 2016 est un budget ambitieux, car il est conforme et amplifie des politiques menées à Metz depuis 2008. Ce n'est pas un budget de renoncement à nos principes et à nos valeurs, car il met le vivre ensemble et la solidarité au cœur de nos interventions, ce dont nous avons aujourd'hui terriblement besoin. Le budget 2016 est un budget rigoureux. Ce sont les économies sans précédent qui permettent de financer nos projets sans augmenter les taux d'imposition. Et aujourd'hui, on voit pleuvoir les mauvaises nouvelles. Je lisais encore le Républicain Lorrain ce matin. On annonce à Thionville, on parle de 20% d'augmentation des impôts. J'ose même pas imaginer la tête de l'opposition dans un conseil municipal à Thionville où on parle de 20% d'augmentation des impôts. Je trouve ça, pour moi, totalement incroyable. Nous avons préféré affronter la réalité sans phare, remettre en cause notre organisation en chassant toute dépense superflue et en s'organisant mieux. Et je tiens ici à remercier une fois de plus l'ensemble du personnel municipal pour sa pleine et exemplaire collaboration à cet effort collectif. Le budget 2016 est un budget d'avenir, avec près de 41 millions d'euros d'investissement pour continuer à transformer la ville, apporter des services nouveaux, développer l'emploi et l'économie, et cela avec un recours faible à l'emprunt. Ce budget 2016, enfin, insiste et développe l'essentiel, chasse le superflu, et va nous permettre de continuer à l'avenir à agir, continuer sur cette voie grâce à la qualité de notre gestion. Merci.
Merci, monsieur le rapporteur. J'ai beaucoup d'inscrits, et je vais vous donner la parole les uns et les autres. Je voudrais simplement dire que j'ai essayé de chercher à regarder un certain nombre de suggestions qui avaient été faites au moment du DOB. Suggestions qui ont été faites par l'opposition. Et donc, je voudrais, répondre à ces suggestions quand elles étaient des véritables suggestions. Hein. Alors, il y en a une de M. Aldrin qui était multiplier les conventions d'objectifs et de moyens et les systématiser dès 3 000 euros de subvention. Voilà. Alors, M. Aldrin, ça tombe bien parce que c'est un de mes engagements de campagne et je pense que les grands esprits se rencontrent. Donc, effectivement, nous allons regarder. Il faut quand même savoir, cependant, que quand on tend vers 3 000 euros, ce sont en général pas des subventions de fonctionnement, mais plutôt des subventions sur projet, c'est-à-dire pour un événement. Hein. Et alors, des conventions peuvent éventuellement créer beaucoup de paperasse par rapport à un instant T qui est relativement court. Néanmoins, on conventionne déjà même au-dessous de 23 000 euros. Hein. On le fait systématiquement. Et quand la convention est utile, par exemple la Chaoué, le COGEP, etc., il y a des conventions d'objectifs et de moyens. Donc ce n'est pas exactement seulement une affaire de seuil, mais c'est une affaire de nature des opérations. Et votre suggestion, bien entendu, est enregistrée et prise en compte dans ce budget, puisque ça correspond tout à fait à ce que je pense être devoir fait. S'agissant des demandes maintenant concordantes de Mme Zimmermann, de M. Thiel, de Mme Colin-Osterlé et de M. Aldrin, tout le monde a évoqué ce point-là, c'était le maintien des effectifs de la police municipale et l'extension de la vidéosurveillance. Ça a été avancé. Ben, écoutez, ce budget vous donne satisfaction puisque nous maintenons les effectifs de la police. Et s'agissant de la vidéosurveillance, nous avons mis un dispositif très important depuis 2008 et on s'aperçoit que un certain nombre de gens nous disent souvent la même, la police nationale. Ils disent, tiens, ce serait bien d'avoir une caméra à cet endroit. Il en manque une là, il en manque une ici. Et donc, on nous fait parfois des suggestions. Et les habitants aussi nous font remonter des propositions, y compris dans le budget participatif, qui est animé par Thomas Scuderi, avec l'œil de la presse nationale maintenant de plus en plus aiguisé, compte tenu de l'originalité de ce qui se passe ici à Metz. Alors, je peux vous donner satisfaction sur ce point, puisque trois nouvelles installations de caméras en centre-ville sont attendues en 2016. Je dis bien attendues, car il y a un financement complémentaire de 40% de l'État. Et donc, on attend d'avoir le complément de l'État de façon à ne pas perdre le bénéfice de ces subventions. Enfin, je voudrais vous dire que ce dispositif n'est pas seulement à l'intérieur du budget de la police municipale, puisque une partie du budget pôle patrimoine bâti et logistique technique sert à moderniser les appareils, à améliorer la qualité des prises de vue, notamment en nocturne. Ça va jusqu'à 35 000 euros dans ce budget-là. C'est important car cela permet une meilleure exploitation des enregistrements par la police. Enfin, nous avons également l'intention de moderniser les serveurs de stockage. Ça, c'est encore un autre budget, c'est le budget de la SCCI, hein, et des enregistrements sur le budget du pôle réglementation. Et cela répond aux questions posées par, lors du, budget, du débat d'orientation budgétaire par, par les personnes que j'ai citées tout à l'heure. Enfin, M. Lebeau, il n'est pas là, mais je vais quand même lui répondre. Il a donné procuration pour le début de la séance, donc tout va bien. Il avait parlé de la passerelle. Située aux Roches, la passerelle des Roches qui est en mauvais état. Effectivement, elle est en très mauvais état. C'est une passerelle qui est en chêne et ça vieillit très mal sous nos climats. Hein, il y a déjà eu des pièces, des rapiessages, des remplacements. Nous avons déjà financé au cours de l'année 2015 une étude par un spécialiste pour un montant de quand même de 4 320 euros. Donc on a le bilan de cette passerelle. Hein. À ce jour, nous sommes en attente de ces propositions budgétaires pour savoir ce que ça peut représenter. Et s'il y a des alternatives, est-ce qu'il faut faire cette passerelle dans une autre matière, ou est-ce qu'il faut la garder en bois et renouveler les ennuis que nous avons, hein. Et puis sur ces bases, nous nous orientons vers une opération budgétée en 2017. Voilà. Alors, je vais maintenant passer la parole. Alors, j'ai tous ces inscrits-là. Vous allez me confirmer que vous voulez bien prendre la parole parce que c'est impressionnant. Mais on y va. Hein. Monsieur Aldrin. Madame Bérangère Thomas, Madame Grollet, Monsieur Lebeau, pas encore arrivé, Madame Nicolas, Monsieur Wendling, non ? Ah, Madame, je vous remercie. Madame, Monsieur Wendling, c'est oui, oui, oui. Madame Collin-Esterlet, oui. Monsieur Thiel, oui. Madame Zimmermann. Non, mais Madame, oui, mais je vous empêche pas de parler, simplement, c'est que.
En passant.
Madame Isler-Véguin, Monsieur Darbois. Monsieur, voilà, Madame Sagrafena, nous sommes d'accord. Et puis Madame Bory, Monsieur Scuderi, Madame Agamemnon, Madame Kosik et Monsieur Descadir. C'est ça ? Eh bien, on y va. Monsieur Aldrin.
Oui, merci Monsieur le maire et chers collègues. Nul doute que le point qui est au cœur du débat de ce budget concerne le soi-disant plan d'économie, soi-disant, puisque selon moi, Monsieur le maire, ce plan d'économie est un, trop tardif, et deux, un écran de fumée. Et je vais vous le démontrer. Et avant cela, je voudrais quand même mettre en perspective le débat de ce budget 2016, puisqu'il s'agit en réalité du 8e budget que vous présentez depuis que vous avez pris vos fonctions. Et vous êtes arrivé au moment, ce n'est pas de votre faute, mais c'est un constat, où il y a eu cette crise financière unique, sans précédent depuis des décennies. Et cette crise financière de 2008-2009 aurait dû, c'était le discours que nous tenions à l'époque, amener à plus de responsabilités, à réduire la voilure. Mais vous avez été, durant toutes ces premières années, littéralement drogué à la dépense publique. Avec, je dois le reconnaître, une mise en scène habile de votre part, pour faire croire, durant tout ce temps, que vous étiez un formidable gestionnaire. Il y avait les hebdomadaires qui étaient brandis, il y avait le sondage, souvenez-vous du sondage, le demi-mandat, le livret aussi, souvenez-vous du livret payé par le contribuable à mi-mandat, pour expliquer à quel point il y avait une gestion extraordinaire ici. Et cette mise en scène s'est arrêtée le 3 juillet 2014. Pourquoi le 3 juillet 2014 ? Ce fut la date du conseil municipal où le compte administratif de l'année 2013 a montré qu'il y avait un déficit de 7 millions d'euros. Et là, le réveil fut douloureux. Alors, ceci étant posé, pourquoi ai-je parlé d'écran de fumée ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, voyez-vous, monsieur le maire, il me semble que la langue française est assez riche pour que lorsqu'on utilise un mot, on l'utilise pour le sens qui est le sien. Et quand on dit un plan d'économie, la langue française veut dire qu'une économie est une baisse de dépenses et non pas une optimisation des recettes. Car quand vous nous présentez un plan d'économie, vous nous dites, sur les 5 millions que vous ferez, que vous prévoyez de faire en 2016, il y en a 10% qui, en réalité, seront une optimisation des recettes. Eh bien non, une économie, c'est une baisse de dépenses, et une optimisation de recettes n'est en rien une économie. A fortiori, quand dans certains cas, optimiser les recettes aboutit notamment à augmenter le tarif des cantines scolaires et périscolaires pour les contribuables messins. Deuxième raison, c'est que je voudrais dissocier ce qui est charge de personnel et le reste, et le fonctionnement. Car je pense que là, effectivement, il y a une distinction à faire. Sur les charges de fonctionnement de la collectivité, je suis au regret de vous dire, monsieur le maire, qu'elle continue à augmenter. Alors certes, très 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 peu, mais elle continue à augmenter. Et là aussi, les mots ont un sens. Il n'y a pas une baisse des dépenses de caractère général. Vous faites en réalité comme le gouvernement, monsieur le maire. Le gouvernement qui prétend faire 50 milliards d'économies, tout le monde sait qu'il n'y a pas 50 milliards d'euros d'économies. Regardez le budget que le gouvernement a présenté, c'est 373 milliards de dépenses versus 370 milliards l'année dernière. Donc c'est plus de dépenses, mais effectivement, il y a un ralentissement de la progression des dépenses. Toute la sémantique est là. Mais de qui se moque-t-on ? Quand les dépenses ne baissent pas, on ne dit pas qu'il y a un plan d'économie, je reprends l'expression, sans précédent, considérable, etc. Non, les dépenses de fonctionnement de la collectivité ne sont pas en baisse. Et d'une manière générale, rappelons quand même quelques chiffres là-dessus, sur les charges à caractère général. Elles étaient de 29 millions en 2008 quand vous êtes arrivé. Elles sont, alors sans le retraitement de la DCSI, là, sur la mutualisation des services, autour de 37 millions d'euros. Donc, tout ce que vous nous dites sur la meilleure gestion, la meilleure optimisation, ça voudrait dire que durant toutes les années précédentes, il n'y avait pas cette bonne gestion, cette bonne optimisation ? Qu'a-t-on fait durant donc toutes ces années ? Alors, monsieur le maire, je crois que la réalité, c'est qu'il y a effectivement un contexte budgétaire tendu. Vous faites effectivement là aussi, là quelque part, sur les fournitures scolaires, l'entretien de certaines voiries, quelques petites économies. Mais vous ne menez aucune réforme structurelle sur le fonctionnement de notre collectivité. Aucune remise en question sur, au fond, quelles sont les missions que la ville de Metz doit assurer et celles qu'elle doit se délaisser, dont elle doit se délaisser. Pardon. Par exemple, je pense que les médiateurs de proximité, nous n'avons plus les moyens de les fonctionner au regard, par ailleurs, de l'efficacité qui est la leur. Par ailleurs, est-ce que vous avez enfin pris une décision sur l'Agence de développement économique qui prend un budget conséquent, plusieurs centaines de milliers d'euros, en changeant le statut ? Toujours pas. Donc il n'y a pas cette réflexion sur la structure même des dépenses. Sur les charges de personnel, maintenant. Alors, c'est vrai, il faut le reconnaître, et je le reconnais pour donner de la cohérence à mon argumentation, il y a des décisions qui sont prises. 30 emplois en 2015 et 30 emplois en 2016. Mais là aussi, monsieur le maire, regardons les chiffres concrètement. Je ne prends pas 2014 et 2015, parce qu'il y a l'histoire du CCAS qui rend difficile les comparaisons. Mais en 2013, si on prend l'effectif total, les titulaires, les non-titulaires, les vacataires, les saisonniers, c'était 2285 agents de la ville. 2285 en 2013. C'était 2160 en 2008. Ça veut donc dire que même en diminuant, il y aura toujours plus d'effectifs qu'au départ, lorsque vous êtes arrivé aux responsabilités. Donc là aussi, les qualificatifs de sensationnels, considérables, du jamais vu, ne sont pas à mettre en perspective avec la réalité des choses, monsieur le maire. Et enfin, dernier point sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est la dette, qui devient vertigineuse dans les projections qui sont les vôtres. Nous sommes à peu près à 40 millions d'encours de dette et vous prévoyez d'aller à 100 millions à la fin du mandat. 97 euros par habitant lorsque vous êtes arrivé, 850 à la fin du second mandat. On est dans une perspective quasiment de 1 à 10 quand même. Quand je dis que c'est vertigineux, c'est pharaonique en réalité. Et ça conclut ma démonstration sur, en réalité, quand on met d'un côté moins 10 millions d'euros de dotation et plus 60 millions d'euros de dettes que vous prévoyez sur ce mandat, où vous prévoyez 10 à 15 millions, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. On voit bien que c'est bien parce que vous avez un rythme des dépenses de fonctionnement trop chargé qui nourrit la dette. Dans le précédent mandat, vous preniez dans la cagnotte. Il n'y a plus de cagnotte, maintenant vous prenez dans l'emprunt. Voilà la réalité de la situation. Alors, vous m'avez fait remarquer au début que vous m'avez écouté sur le conventionnement des associations. C'est une bonne chose, je vous en remercie. Monsieur le maire, et pour terminer dans le temps qui m'est imparti, écoutez l'opposition sur tous ces aspects que nous avons et que j'ai démontré et déroulé depuis des années et qui conduit à cette situation budgétaire très difficile pour notre ville et qui nous amène évidemment à avoir un regard très critique sur ce budget.
Merci. Madame Thomas.
Je cède mon temps de parole à Madame Grelet, s'il vous plaît.
Ah, vous ne cédez rien du tout, c'est moi qui donne la parole, madame. Madame Grelet. Eh oui, c'est comme ça.
Oui, monsieur le maire, il paraît que vous aimez les compliments, alors je peux le faire. Bravo, vous n'augmentez pas les impôts, mais ils augmentent quand même. C'est du moins le paradoxe que nos concitoyens retiendront en lisant Metz Mag ou en regardant France 2, puis en recevant leur avis d'imposition pour 2016. Bravo à l'élu en charge des finances pour ce résultat, dont le produit des taxes augmente de 1,6%. Bravo. La taxe foncière a ainsi depuis 2008 quasiment rattrapé la taxe d'habitation. Ce n'est pas favorable pour les propriétaires, mais aussi pénalisant pour les locataires sur qui les augmentations sont répercutées. Notre ville a besoin de nouveaux habitants et la vacance immobilière dont souffre Metz est aussi des habitants qui fuient la fiscalité de notre agglomération. S'il est vrai que les taux n'augmentent pas depuis 2010, où ils avaient tout de même pris 10% et 6% en 2 ans, je ne vous féliciterai pas.
Faux.
Oui, je ne vous féliciterai pas pour autant. Alors que la population, dont le nombre de contribuables, donc le nombre de contribuables baisse, vos recettes augmentent. Vous pouvez revoir mon temps de parole, s'il vous plaît, monsieur le maire.
Allez-y, madame.
Alors que la population, donc le nombre de contribuables baisse, vos recettes augmentent. Comment ? Pour la part due à l'augmentation mécanique des bases, il est vrai que c'est du ressort de l'État, mais vous avez laissé rouler l'augmentation proposée par les services fiscaux, parce qu'au final, cela vous arrange de faire porter le chapeau, si j'ose dire, par l'État. Si le maire veut peser tout son poids sur l'administration, il le peut, il peut même baisser ses prélèvements, on peut rêver, pour que la facture totale soit stable pour le contribuable, c'est possible. Quant à l'autre raison de l'augmentation du produit des impôts, la municipalité y serait-elle pour quelque chose ? Je n'ai pas augmenté les taux, direz-vous. Mais revenons au Conseil de septembre 2015. En rabotant les abattements sur la valeur locative moyenne de 15% à 10% sur les foyers de 1 à 2 personnes, vous ponctionnez plus 950 000 euros d'impôts fonciers. Bravo. Sachant que les foyers composés d'une seule personne ne cessent d'augmenter à Metz, bravo et merci pour eux. Bravo pour ce tour de bonneteau, habilement présenté à distance du DOB et du budget primitif. Et merci pour les médecins au pouvoir d'achat déjà bien écornés par les hausses de tarifs des services publics que vous avez décidées et qui sont payés par tous. Cantine, électricité, stationnement. Sans compter les hausses co-décidées par vous tous à Metz Métropole, comme les transports en commun. Exemple pour le périscolaire, 130 000 euros de plus seront payés cette année par les familles. C'est la recette, dont 3 000 euros pour le périscolaire du matin, 127 000 pour la cantine. Impossible pour votre opposition de savoir dans ces augmentations la part due à la hausse de la fréquentation et celle due à la hausse des tarifs. Et je laisse à part les 294 000 euros du périscolaire, puisqu'ils ne sont pas interprétables vu le changement de facturation. L'augmentation de la fréquentation est en bonne partie induite par la toujours impopulaire réforme des rythmes scolaires. Elle représente des charges en plus pour les finances publiques, comme pour les familles. D'ailleurs, on note une hausse de la contribution au fonctionnement des écoles privées, plus 43 000 euros, malgré la suppression injuste des aides aux maternelles. Serait-ce qu'un nombre grandissant de parents choisissent l'enseignement privé qui n'applique pas la réforme des rythmes ? Pour en finir avec les recettes, les bases de l'impôt augmentent, les recettes dues aux tarifs augmentent. On aurait peut-être pu geler l'emprunt pour fonctionner à budget constant, comme le font nos compatriotes, mais non. Au train où vous allez, l'endettement explose. Vous avez encore emprunté 10 millions en 2015, vous empruntez 16 millions de plus en 2016, 60% d'augmentation, bravo. Mais l'emprunt, qui atteindrait donc 100 millions d'euros dans 4 ans, c'est l'impôt de demain. J'en viens maintenant aux dépenses. Votre plan d'économie est parfois bien mystérieux malgré les documents. On n'a pas de réelle lisibilité sur les coupes opérées et leurs conséquences. Sur les baisses du personnel, 130 personnes en 3 ans. Par exemple, je reste dubitative lorsqu'on voit les suppressions qui ont été réalisées en 2015. C'est bien ce qu'on craignait. Sur 32, l'essentiel sont des postes techniques, 6 aux espaces verts, 5 aux espaces publics et à la logistique. On ajoute 8 assistantes maternelles, comme on n'imagine pas que le taux d'encadrement est baissé. On suppose qu'il s'agit des suites de l'intégration de la petite enfance du CCAS. Une opération planifiée, donc, sans rapport avec la nécessité d'économiser. Nous verrons en 2016 pour les 30 suppressions suivantes. On nous a expliqué qu'il s'agissait de rationaliser en supprimant notamment des heures supplémentaires qui représentent aussi du pouvoir d'achat. Et rogner sur l'emploi à ce niveau, c'est aussi rogner sur la qualité du service public, c'est faire plus vite et avec moins de moyens. Les chèques vacances, c'est bien, mais dans les conditions de travail, des conditions de travail correctes sont la priorité. Par exemple, un concierge dans une école, c'est capital. La police municipale est sanctuarisée, dit le rapport. C'est bien trouvé. On peut aussi dire gelée, en des temps où ses effectifs devraient augmenter. Sur les économies, vous aurez beau multiplier la chasse au gaspillage, et c'est vrai qu'il y a toujours ce réflexe à avoir, mais qui semble bien nouveau chez vous, comme à Metz Métropole. Ce sera efficace, 1 an, 2 ans, mais on ne peut pas recommencer chaque année les mêmes sacrifices pour les services, sauf à le faire au détriment des services rendus. Vous reniez encore sur le lien social. Je ne parle pas là de certains dispositifs plus ou moins onéreux, dont il serait utile de faire un bilan exhaustif pour chiffrer leur rapport coût-efficacité. Je parle du budget du CCAS, qui, lui, n'a pas la chance d'être priorisé comme la culture. Je l'ai appris, nous l'avons appris au conseil d'administration du 15 décembre dernier, mais rien n'est dit à la page 13 du rapport. C'est grave. Le CCAS perd donc 530 000 euros sur 3 ans, dès cette année, 214 000 euros de moins, soit 11% de son fonctionnement. Pourtant, qui peut ignorer encore la montée de la précarité à Metz ? Cette baisse est énorme dans un contexte où la population messine a perdu 3,3% d'habitants déjà entre 2007 et 2012, et cela continue, mais la population des plus de 60 ans augmente de 25%. Or, ils sont bien le cœur de métier du CCAS. Les familles monoparentales également augmentent. Le taux de pauvreté progresse de 21%, 14% en Moselle. Il touche d'abord les moins de 30 ans. Et que dire du chômage endémique, plus 16% depuis 2012. 11 000 personnes à soutenir. C'est énorme. Bref, tout augmente et le budget diminue. Et c'est le moment que vous choisissez, en plus, pour engager le CCAS, ses moyens, son personnel, dans la préparation de l'arrivée des migrants syriens, lui imposant une charge de travail en plus. Une mention sur des dépenses nouvelles qualifiées de subies, ce qui est un peu surprenant pour la redevance spéciale, puisque vous l'avez votée à Metz Métropole. Quant à l'abandon de créances sur la SANEMA, nous attendons plus d'explications. Il s'agit de 391 000 euros tout de même. Alors voilà ce que j'ai obtenu comme information à la Commission des finances. Le délégataire des parkings Coislin et République, associé à de Mathieu Hébard, donc ce délégataire a fait faillite en 2007 et la ville n'a pu récupérer que 300 000 euros. Ces bribes d'informations sont-elles confirmées ? Coislin se redresse depuis peu, mais comment a-t-on pu laisser filer un tel défaut de paiement de redevances ? Sachant que la SANEMA a aussi laissé un très mauvais souvenir de sa gestion et des ardoises dans plusieurs collectivités locales en France, que son gérant et liquidateur est aussi gérant de 7 autres sociétés et liquidateur d'une autre, quelles dispositions ont été prises par la ville, quand et par qui concernant ce contrat ? J'ai peut-être un retard sur l'historique de ce dossier, mais tout le monde doit être informé. L'an dernier, on votait une énième rallonge pour un énième budget, un énième dispositif culturel intitulé « Je veux un artiste chez moi ». J'avais attiré votre attention, monsieur le maire, sur le fait qu'il y avait peut-être des priorités qui se trouvent dans la réponse aux urgences sociales, comme je viens d'en parler, et ceci avait suscité votre colère, car pour vous, la culture serait aussi vitale que manger ou se chauffer. C'est votre avis. Je n'ai jamais dit, comme cela a été insinué, qu'il fallait supprimer le budget culture, mais que son volume était excessif, vu les circonstances. Vous décidez donc, pour 2016, que le budget culture sera exempté des économies à faire. Et il augmente même sans le volet culture de TCRM Blida, plus 0,7%. Avec cette structure, on atteint plus 5,83% d'augmentation. Pas d'effort donc, pas pour tous, puisqu'il y a une redistribution des moyens à l'intérieur de l'enveloppe et que, par exemple, Metz en Seine, lui, doit faire des efforts. En revanche, votre politique de création de nouvelles structures, votre frénésie d'événementiel, crée des charges supplémentaires qui obligent à une fuite en avant budgétaire. Pour résumer, Metz vit au-dessus de nos moyens, des moyens de nos concitoyens. Je vous remercie.
Monsieur, Madame Grenet, Monsieur Lebeau, absent. Monsieur Vanling.
Oui, Monsieur le maire, j'interviendrai pas sur l'ensemble du budget prévisible parce que d'autres dans le groupe le feront. Je voulais intervenir sur un point qui a été souligné également, c'est la baisse de la subvention au CCAS. Plus de 500 000 euros retirés au CCAS dans les 3 années à venir, alors qu'on a une situation à Metz qui s'aggrave, une situation sociale. Ça a été également cité, c'est vrai que si la population de Metz a baissé de 3,3% en 5 ans, la population des 60-74 ans a augmenté de 18,5% et la population des plus de 75 ans de 7%. À Metz, le taux de pauvreté est à 21% alors qu'il est à 14,5% en Moselle. À Metz, depuis quatre ans, on a une augmentation du chômage de 16%. Et face à tous ces chiffres, tous ces indicateurs qui sont quand même extrêmement inquiétants, et donc à une demande au CCAS qui va être plus importante, on diminue la subvention au CCAS de plus de 500 000 euros. Alors, bien sûr, je comprends qu'il faille faire des économies. Je comprends qu'il faille, si on décide de garder la subvention au CCAS, diminuer d'autres budgets. Et c'est pour ça que je propose que cet argent-là, qui à mon avis est nécessaire à l'avenir du CCAS, soit pris sur le budget participatif. Le budget participatif, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de choses qui peuvent être décalées dans le temps. Il n'y a pas d'urgence à faire les choses. On a sanctuarisé ce budget comme d'autres, parce que dans votre communication, vous parlez, effectivement, vous avez sanctuarisé la culture et l'éducation, ce qui fait sans doute plaisir à votre électorat, mais vous avez aussi sanctuarisé la police municipale, vous avez sanctuarisé ce budget-là. Alors, il faut l'annoncer plus fort, monsieur le maire. Et je note que vous ne l'avez pas dit. Et donc, je pense qu'il faut aller chercher dans ce budget pour permettre au CCAS, d'autant que non seulement la demande sociale va augmenter, mais en plus, on rajoute au CCAS de nouvelles missions. On veut lui faire faire de nouvelles choses. Je ne parle même pas seulement de l'accueil des migrants syriens. Nous en avons parlé effectivement au CCAS et je vous ai donné ma position. Mais également d'autres services qui sont demandés au CCAS dans le développement, dans l'aide à la personne âgée, etc. Donc je pense que c'est une erreur, et même une grave erreur, de diminuer le budget du CCAS de 500 000 euros, d'autant qu'en matière sociale, d'abord, il faut effectivement un taux d'encadrement, un personnel important, et qu'on ne peut pas, comme dans d'autres services, diminuer le personnel, parce que quand vous faites de l'accueil de personnes vulnérables, fragiles, vous avez besoin effectivement de temps, vous avez besoin d'avoir un personnel qui soit présent, et puis que vous avez une demande, si vous voulez, à laquelle de toute façon vous devrez répondre. Parce que d'une certaine manière, dans le social, on est parfois à robinet ouvert. Quand on dit qu'on va donner 50 euros aux personnes âgées qui adhèrent à une association, si demain il y a plus de demandes, on sera bien obligé de les couvrir. On ne l'a pas limité. Quand on a une caisse de secours dans le social, on aide toute l'année. On ne dit pas au mois de septembre, ça y est, on a terminé, on a liquidé notre budget, maintenant revenez en janvier. Et donc vous allez avoir des dépenses auxquelles vous allez devoir répondre et que vous ne prenez pas en charge. Merci.
Alors, Madame Colin-Sterlet.
Oui, Monsieur le maire. Alors, ce que l'on retient finalement de ce budget, c'est effectivement, comme l'a dit Jérémy Aldrin, l'annonce d'un plan pluriannuel d'économie, mais avant tout une prise de conscience des erreurs passées et avec finalement des économies qui ne sont pas du tout à la hauteur des dépenses de fonctionnement supplémentaires, et je vais y revenir. Des dépenses qui ont été faites sur les années précédentes, bien sûr. Alors, trois remarques. La première, c'est qu'effectivement, si nous sommes obligés de serrer la vis, c'est avant tout à cause d'une politique extrêmement dépensière depuis votre arrivée en 2008 et un manque de rigueur budgétaire évident. Ça a été la culture de la dépense. Vous avez dépensé bien au-delà de ce que vous aviez, malgré les annonces gouvernementales dès 2012 de diminution des dotations de l'État aux collectivités. Cela s'est traduit par 32 millions de dépenses de fonctionnement supplémentaires, des augmentations d'impôts et pas des moindres. Et la dernière, c'est quand même 1 million d'euros ponctionnés sur les contribuables messins, ça date d'il y a 2 mois, par une dette qui aura été multipliée par 7 à l'horizon 2020, par une diminution de votre autofinancement, avec une épargne nette qui passe de 18 à 10 millions en 7 ans, et les 60 millions de réserves englouties. Alors, quant à votre politique d'investissement, elle n'a pas été productive de richesses, mais au contraire, productive de nouvelles dépenses de fonctionnement. Les recettes cette année, c'est 6 millions supplémentaires d'emprunts, 700 000 euros supplémentaires d'amendes de police et 1,5 million de ventes de patrimoine. Est-ce qu'on peut appeler ça des recettes dynamiques? Je ne crois pas. Quant aux produits taxes de séjour, ils diminuent de 40 000 euros, ce qui montre que nous perdons en attractivité, contrairement à tout ce qui est annoncé ici ou là. Ma deuxième remarque, elle concerne la masse salariale. Celle-ci a augmenté de 10 millions depuis votre arrivée, et vous tentez aujourd'hui de revenir en arrière, mais je note que ce sont les catégories C qui font les frais des suppressions de postes, des non-remplacements, alors que depuis votre arrivée, ce sont essentiellement des contractuels, plutôt, qui ont été embauchés avec des salaires qui ne sont pas exactement au même niveau. Alors, ma troisième remarque, vous affichez aujourd'hui comme domaine sacralisé l'enfance et la culture. Plusieurs questions. Il est enfin écrit, noir sur blanc, que la ville verse 1,7 million par an pour les activités périscolaires. À la louche, on va dire que 1 200 enfants sont concernés. Comment peut-on justifier que pour cette somme, on ne puisse pas donner aux enfants un goûter, qu'on ne puisse pas mettre en place une aide aux devoirs et qu'on ne puisse pas dispenser une heure d'apprentissage d'allemand pendant ces activités périscolaires? Si l'éducation est une priorité, croyez-vous raisonnable de diminuer le nettoyage des écoles, moins 130 000 euros, de diminuer le poste nettoyage des gymnases, moins 127 000 euros, en supprimant un jour de nettoyage par semaine? Si l'éducation est une priorité, croyez-vous raisonnable de diminuer la dotation aux élèves des écoles primaires de 18%? Si l'éducation est prioritaire, comment expliquer l'augmentation des tarifs de restauration scolaire à hauteur de 70 000 euros annuels pour le contribuable messin? Et enfin, on parle d'une augmentation de la subvention de nos écoles privées. Je rappelle que ce qui était donné pour les classes maternelles a été supprimé, et donc l'augmentation, c'est simplement une obligation, puisqu'on revient tout doucement et sur plusieurs années au seuil légal, que nous ne respectons pas aujourd'hui. Si la jeunesse est une absolue priorité, pourquoi poursuivre dans la réduction des crédits à l'animation estivale, moins 25%, alors qu'il est essentiel en termes d'insertion de pouvoir faire connaître à nos jeunes des pratiques sportives et culturelles jusqu'alors inconnues? Et si la petite enfance est une absolue priorité, alors pourquoi n'avançons-nous pas sur le dossier des maisons d'assistantes paternelles, lesquelles sont des opérations quasi blanches pour la ville en termes budgétaires? De la même manière, vous dites sacraliser la culture, mais excusez-moi, c'est une culture à votre sauce. Vous diminuez de 150 000 euros la subvention de la ville à l'EPCC, et surtout, vous privilégiez dans le même temps les festivals, dont la profusion, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, prive de toute lisibilité votre politique culturelle. Passage, 140 000 euros. Onde Messine qui est annoncé à 140 000 euros, mais ce n'est pas le budget d'Onde Messine. Onde Messine, le budget, c'était combien? 350 000 euros. 350 000 euros pour Onde Messine. On reverra. Moi, j'aimerais bien avoir des budgets analytiques sur ces festivals, ce serait quand même intéressant. Ceci et le reste venait de l'EPCC Metz en scène et des TCRM Blida. Ceci est-il cohérent en période de disette budgétaire? Pendant ce temps, le sport reste le parent pauvre de votre politique. Baisse des subventions aux clubs sportifs, opposition entre sport de masse et événementiel, alors que rien, me semble-t-il, n'est plus essentiel aujourd'hui que l'insertion par le sport. Le développement économique, vous l'évoquez à l'occasion de la construction du Palais des Congrès. Un Palais des Congrès, je le répète, qui aurait tout à fait pu être conforté au sein de structures existantes, telles que l'Arsenal, lequel accueille déjà des congrès d'ampleur et de renommée. La somme investie est certes colossale, 6,5 millions, mais je ne vois rien concernant des actions immédiates de redynamisation du centre-ville qui auraient pu être budgétées. La subvention de la ville à Metz Métropole Développement a augmenté de 100 000 euros en 2015 avec l'arrivée de M. Fonté comme salarié de cette structure. Elle diminue aujourd'hui de 40 000 euros. C'est-à-dire que ce salarié est déjà passé à mi-temps. Cette subvention de 660 000 euros se traduit-elle par des actions concrètes? Et si oui, lesquelles? Le plateau piétonnier doit être rénové. Pouvons-nous avoir une présentation des différents projets? Car ce qui sera fait le sera pour plusieurs dizaines d'années. Alors oui, j'ai le sentiment que ce budget ne répond pas aux actions nécessaires, aux actions qu'attendent vos administrés, notamment en termes d'actions privilégiant la création de richesses, l'emploi, en termes de développement, d'insertion, d'épanouissement de notre jeunesse. J'ai aussi le sentiment qu'au vu des comptes administratifs précédents et des régularisations successives, certaines économies annoncées ne sont pas sincères et des réajustements seront forcément nécessaires lors de décisions modificatives ou lors du budget supplémentaire 2016. Je pense tout particulièrement au fluide ou à l'électricité. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que les Messins ne veulent pas qu'on les divertisse, ils veulent qu'on les aide à trouver du travail, ils veulent une ville ambitieuse, mais ils veulent aussi davantage de proximité, notamment de la sécurité et de la propreté. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, monsieur le maire. Donc, merci, davantage madame. De proximité et davantage d'ambition.
Merci, madame. Monsieur Thiel.
Monsieur le maire, je me contenterai de regarder les grands équilibres, si vous me le permettez. Beaucoup de choses ont été déjà dites. Alors, d'abord, pour vous dire, monsieur le maire, que vous soignez bien votre communication, même si vous en faites moins de manière institutionnelle. Merci. Puisque... C'est vrai, mais nous l'avions demandé depuis longtemps. Et ça, c'est un peu à l'image de ce qui se passe sur ce que vous dites sur le fonctionnement. à savoir que si vous n'aviez pas été contraint par le gouvernement du fait de la baisse des dotations pour revenir sur une politique parfaitement cigalière, eh bien, je crois que vous continueriez comme avant. Comme avant. Alors, c'est assez intéressant de regarder. Vous faites ce que je dirais des trompe-l'œil. Alors, vous dites, alors c'est vrai, les dépenses de fonctionnement diminuent par rapport au budget de l'année dernière. 164 millions, pour faire un peu bref, 164 millions de dépenses de fonctionnement cette année contre 168 millions l'année dernière. Certes, mais vous vous souvenez qu'en 2009, c'est votre gestion, vous aviez déjà commencé à augmenter les dépenses de fonctionnement et on était à 159 millions, monsieur le maire. 159 millions. C'est-à-dire que nous avons une différence de pratiquement 10 millions d'euros de plus de dépenses de fonctionnement jusqu'en 2015 et en 2014, on baisse un tout petit peu. La même chose pour le personnel. Le personnel, monsieur le maire, nous avons aujourd'hui une baisse légère, 88 877 000, par rapport à l'an dernier, 89 942 000. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, c'est une baisse d'un million. Alors que en 2009, vous étiez à 68 600 000, c'est-à-dire que nous avons entre 2009 et 2015 augmenté de 20 millions les frais de personnel. 20 millions, monsieur le maire. Alors certes, il y a des intégrations, etc., mais c'est 20 millions. On avait attiré l'attention, enfin j'avais notamment insisté sur la crise économique qui nous menaçait, qu'il fallait faire extrêmement attention à la dette publique et que dans les dettes publiques, il y avait les dettes des municipalités. Et que le recours à la dette, au lieu et place à un impôt qui est stabilisé en taux, mais comme ça a déjà été dit, pas stabilisé pour les médecins qui verront une augmentation d'impôt, eh bien, le remboursement de la dette commence à se faire sentir, puisque de 600 000 euros en 2009, nous sommes aujourd'hui à 1 316 000, soit un plus que le doublement du remboursement de la dette. Et à nouveau, je vous dis, faites extrêmement attention à la dette. Pendant ce temps-là, l'autofinancement se divise par deux. Donc, ben oui, 25 641 000 en 2009 et 11 566 000 aujourd'hui. Oui, ben c'est ça, c'est divisé par deux. Donc voilà, si vous voulez, déjà un certain nombre de chiffres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, monsieur le maire? C'est que nous n'aurions pas fait ça. La droite et le centre et la gauche, ce n'est pas la même chose. Non, vous ne faites rien, on n'est pas aux commandes, monsieur Toulouse.
Laissez finir.
Je croyais, monsieur le maire, je croyais, monsieur le maire...
Voilà. Monsieur Thiel, vous avez la parole, monsieur Thiel.
Merci, monsieur le maire, de rappeler à l'ordre votre adjoint aux finances. Qui prend la parole un peu légèrement.
Allez-y.
Alors, ensuite...
Monsieur Thiel, je vous en prie.
Voilà, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, mais j'y reviendrai sur la culture tout à l'heure, puisqu'il ne faut pas être trop long, et moi, je voudrais laisser du temps de parole à ma chef de groupe. Alors, en ce qui concerne l'investissement, monsieur le maire, vous savez, au temps où tout allait bien, j'avais appris qu'il fallait, dans un mandat, faire un grand investissement pour dynamiser la ville, lui apporter quelque chose de neuf, contribuer à l'emploi. Mais quand les vaches sont plus maigres, monsieur le maire, vous allez sur deux grands investissements. Deux grands investissements. Mais cependant, là encore, il y a, je dirais, du mirage, puisque si je reprends le chiffre de 2009, la dépense globale d'investissement a été affichée dans le budget primitif à 49 millions. Je vous fais grâce du reste. Et cette fois-ci, on est très satisfait, néanmoins, de l'effort qui a été fait par rapport à l'année dernière, puisqu'on passe de 32 à 39. Mais 39, monsieur le maire, par rapport à 49, c'est 10 millions de moins aussi. Donc, voyez que lorsque l'on remet tout ça en perspective, on n'est pas tout à fait sur la même communication, si j'ose dire. Alors, je terminerai par vous dire merci d'avoir entendu pour la police et le reste, mais en revanche, vous êtes resté sourd à nos autres injonctions, la dette, l'impôt et je dirais la baisse de l'impôt et la baisse de fonctionnement et la baisse des crédits de fonctionnement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Mais là, c'est vrai que ça doit être très difficile pour vous, je le conçois, c'est très difficile pour vous parce que vous avez été particulièrement dépensier dans ce domaine pendant toutes les gestions qui ont précédé. Je crois que je n'ai pas été le seul à le dire. Jérémy Aldrin l'a dit, Nathalie Collin-Osterlet l'a dit également en filigrane. Voilà.
Madame Zimmermann.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Je voudrais simplement faire une remarque en préambule. Lorsqu'on se permet de parler d'une autre ville, je pense que... Non, mais attendez, vous pouvez aller... Bon, est-ce que je pourrais peut-être aller jusqu'au bout de ma phrase ?
Madame Zimmermann.
Quand on se permet de faire des commentaires sur une autre ville, on essaye de connaître et de savoir quel est l'état financier de la ville lorsque cette personne arrive. Voilà. Mais non, mais c'est très petit peut-être comme remarque, mais c'est la réalité. Donc, si ces impôts augmentent, c'est un petit peu parce que la municipalité précédente... D'abord, ce n'est pas un dialogue que j'engage avec vous. C'est parce que la municipalité précédente, qui, si mes souvenirs sont bons, était de la même couleur politique que la vôtre, ont fait un endettement qui était un petit peu excessif. Voilà, premièrement. Deuxièmement, il y a également un autre point. C'est que quand vous êtes arrivé aux commandes, il y avait effectivement... un matelas suffisamment important qui vous a permis de travailler déjà pendant le premier mandat et malheureusement on démarre mal le deuxième mandat avec un endettement qui commence à prendre une certaine ampleur qui devient inquiétant et une ampleur inquiétante pardon et d'autre part en sachant que à la fin du mandat la personne qui reprendra la suite. Si c'est vous, mais attendez, je vous ai rien demandé, Monsieur Toulouse.
Madame okay Zimmermann,
la seule chose que je vous dis, c'est que la personne qui reprendra après, eh ben, je peux vous dire qu'elle aura peut-être les mêmes difficultés que le maire actuel de Thionville, tout simplement parce que vous auriez alimenté l'endettement. Voilà ce que je voudrais vous dire en préambule, premièrement. Deuxièmement, ce que je voudrais vous dire également. Lorsque on regarde votre document, d'abord, je tiens à remercier les services parce qu'effectivement, c'est un document très pointu, c'est un document qui donne des informations très précises sur les choses et ça me donne quand même l'occasion peut-être de poser une question sur le document et très rapidement sur le document numéro 2. Où j'aurais aimé, lorsque vous mettez les autorisations, j'aurais aimé, quand vous mettez travaux dans les crèches, que vous nous mettiez les crèches que vous allez mettre en travaux, les écoles, parce que le document est un petit peu succinct, c'est le 2, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, lorsque on lit ce document, effectivement, on pourrait, sans avoir... être un petit peu amnésique sur les 8 années qui viennent de se passer, sur ce qui s'est passé au mois de septembre dernier, on pourrait dire qu'il y a deux points positifs. Premier point positif, effectivement, le taux des impôts n'augmente pas. C'est un point positif. Mais je crois qu'il ne faut quand même pas prendre les gens non plus pour des ignares. Et à partir du moment où il y a une réévaluation des bases qui sera de l'ordre de 1%, ben, de ce fait, sans aucun doute, le produit fiscal, c'est-à-dire les impôts locaux payés par les médecins, devrait augmenter mécaniquement. Alors là, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études, ni d'experts comptables, ni compagnie. Voilà. Donc, voilà. La conclusion est très bonne, sauf que on oublie ce qui s'est passé au mois de septembre et on oublie la réévaluation des bases. Deuxièmement, lorsque vous dites qu'il y a une légère baisse des dépenses réelles de fonctionnement, ben, là aussi, je reviens, comme l'a très justement dit Patrick, je reviens à l'année 2009. Écoutez, il n'est pas interdit quand même de pouvoir revenir à une année 2009 qui pouvait être une base aujourd'hui, sachant que les dotations de l'État étaient en diminution. Donc, on aurait pu supposer que les baisses de fonctionnement les baisses de dépenses de fonctionnement puissent revenir à 2009. Au niveau des investissements, et des emprunts, en 2016, les dépenses d'investissement seront de l'ordre de 40 millions d'euros, soit une augmentation de 21%. C'est-à-dire que la ville va continuer à investir. Sur le principe, c'est très bien. Je reconnais qu'effectivement, quand une ville investit, c'est bien. C'est bien à la fois pour les générations futures, c'est bien également pour les entreprises. Donc, voilà, oui. Sauf que lorsqu'on regarde les investissements, c'est le Palais des Congrès. Bon. Le Palais des Congrès, je crois d'abord, et là, je l'ai dit à maintes reprises, ce Palais des Congrès, ça fait 20 ans qu'il devrait être là. Et à partir de là, je crois... Bon, je peux aller jusqu'à la fin de ma phrase. À partir de là...
Laissez parler, Madame Zimmermann.
À partir de là, lorsque on est dans une situation économique qui pose certaines difficultés, on peut peut-être avoir, je dirais, une certaine raison dans l'utilisation de toutes les structures qui existent. Et peut-être ne pas avoir une voilure aussi grande pour un palais des congrès, d'autant plus que, je ne sais pas si, là aussi, il ne faut pas être amnésique, on est quand même aujourd'hui une ville qui malheureusement, et j'ose l'espérer, ne va pas devenir une sous-préfecture de la grande région ALCA. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui toutes les directions régionales qui partent à Strasbourg, et ça ne me fait pas rire, ça ne me fait pas rire du tout. Lorsque l'on regarde toutes les directions régionales qui partent à Strasbourg, je peux vous dire que j'ai quelques inquiétudes, même par rapport au Palais des Congrès, parce que il est clair que à partir du moment où on a un Palais des Congrès, on attend, oui, je dirais, des arrivées massives de congrès. Bon, là, il y a des questions qui se posent. Par contre, l'équipement TCRM Blida, notamment sur l'incubation entrepreneuriale labellisée French Tech, là, je crois que non seulement c'est un bon investissement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet investissement est en lien direct aujourd'hui avec l'avenir, d'une part, et avec peut-être un point qui, moi, me paraît extrêmement important pour la ville de Metz, c'est tout le travail qui peut être effectué au niveau du numérique. Et cet aspect au niveau et cet investissement sur TCRM Blida, je crois qu'il est extrêmement bon. Dernier point, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que il y a, vous avez choisi effectivement la petite enfance, vous avez choisi tout ce qui est politique sociale. Alors, moi, j'ai quand même quelques remarques à vous faire. Au moment du DOB, je vous avais dit notamment qu'il me semblait que, certes, les places de crèche, c'était très bien. Dans ce nouveau budget, on apprend que la crèche de Borny va être mise en route. Alors, ce que je souhaiterais quand même là mettre en évidence aussi, c'est qu'il n'y a pas une politique au niveau des crèches qui est la vérité. Hein. Lorsqu'on dit, de toute manière, c'est le bon équipement, c'est quelque chose qui est fabuleux, bon, il y a peut-être aussi une réflexion à mener. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait, par rapport notamment à la réflexion de remplissage des crèches, mais également à la réflexion de complémentarité par rapport aux crèches, il y ait une réflexion qui soit menée sur ce que j'avais demandé au moment du DOB sur les MAM, parce que je crois que ça peut être un très bon complément. Au niveau, et j'en terminerai par là, au niveau de l'accueil des personnes du troisième... Oui, non, enfin, attendez, excusez-moi, hein, quand même. Bon, et j'ai pas fait de redite, hein. Voilà. Parce que, quand même, avec tout ce qui a déjà été dit, je n'ai pas fait de redite. Voilà. Au niveau des personnes âgées, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait aujourd'hui peut-être un travail, parce que certes, il y a un accueil, il y a aujourd'hui des clubs de troisième âge, il y a une politique du troisième âge. Et je suis prête à dire que c'est une politique qui est attentive à ce que aujourd'hui la population de la ville réclame. Simplement, moi, j'aurais quand même souhaité qu'il y ait peut-être plus, je dirais, de travail en mutualisation qu'il soit fait avec le département au niveau à la fois de l'accueil, au niveau, je dirais, de l'environnement social, de l'humanisation, parce que là aussi, comme dans d'autres services, je me demande quelque part s'il n'y a pas moyen à la fois de faire des économies au niveau du département, qui a cette compétence du social et de la ville, et pourquoi pas avoir, je dirais, des moyens qui se mutualisent de façon à être encore mieux au service de la population. Et alors, j'arrête là, je vais simplement vous faire une demande, monsieur le maire. J'aimerais bien que tous vos conseillers qui sont en face de nous arrêtent de ruminer. Non, mais je vous assure que c'est pénible. Je ne sais pas, parce que vraiment, c'est profondément désagréable. Je sais qu'on est peut-être inintéressant.
Je vous écoute,
madame. Je sais qu'on est vraiment peut-être pas très correct par rapport à la majorité, mais simplement, il y a un minimum de politesse à avoir. Merci.
Merci, madame. Alors, monsieur Darbois.
Car s'il faut répondre aux enjeux du moment, nous avons le devoir de continuer à préparer l'avenir des Messins, en investissant dans les équipements qui renforcent notre attractivité et stimulent notre développement économique. Monsieur le maire, chers collègues, vous reconnaissez cette phrase, elle est quelque part dans les textes. Alors si on peut bien sûr, et nous y adhérons à ce propos, je crois que ça ne suffit pas. Il manque l'essentiel. Enfin, pour nous, j'aimerais que vous partagiez la suite de mon propos, et je crois que vous allez le partager. Certes, monsieur le maire, les enjeux économiques sont importants, mais à quelques jours, et j'y reviens, mais à quelques jours des accords historiques de la COP21 à Paris, nul ne peut ignorer que l'enjeu du moment est d'abord l'avenir de l'humanité et de son climat. Et comme l'a dit monsieur Fabius, monsieur Ban Ki-moon, les chefs d'État présents, mais aussi et surtout les maires des grandes villes du monde réunis le 4 décembre à Paris, sommet auquel j'ai eu l'honneur de vous représenter, monsieur le maire, et ainsi de représenter la ville de Metz. Alors, comme l'ont dit toutes et tous ces personnalités, les solutions de climat passent essentiellement par les collectivités locales. Les collectivités locales sont donc aux avant-postes des solutions climatiques. De ce sommet, de l'ensemble des réunions et rencontres que j'ai pu avoir pendant la semaine, notamment dans le cadre de la Convention des maires, les maires sont unanimes pour dire que le temps des discours lénifiants est dépassé, que nous sommes maintenant vraiment dans le temps des solutions et de la mise en œuvre de ces solutions. Ce sont les messages essentiels que je retiens de la COP21. De ces échanges, je retiens aussi qu'ici à Metz, nous sommes dans le tempo. Nous sommes encore dans le tempo. Nous sommes dans une sorte de moyenne haute. Autrement dit, nous faisons notre part. Et j'ai pu, lors d'une réunion à la Maison de l'Europe à Paris et dans le cadre de la COP21 aussi, évoquer notre parcours messin depuis 10 ans. Mais je retiens aussi que nous ne sommes pas les seuls à avancer. Et bien heureusement, il y a d'autres modèles gagnants. Je retiens aussi de cette COP21 qu'il va falloir aller plus loin et que l'enjeu climatique concerne toutes les décisions que nous prenons ici. Le budget que vous présentez cet après-midi concerne bien sûr tout le monde. Toutes les compétences, tous les conseillers municipaux y ont travaillé. C'est comme cela que ça marche depuis longtemps. Qu'on soit de gauche, de droite ou du centre. Je souhaite, monsieur le maire, nous souhaitons que pour l'écologie urbaine, vous imprimiez, vous exigiez la même méthode, car l'écologie, le climat, concerne tout le monde. Autrement dit, il serait souhaitable que chacun d'entre nous, membres de votre exécutif, prenions véritablement notre part dans les changements de comportement nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Je retiens ça de la COP21. Chacun sa part, ici comme ailleurs. chacun sa part, et cela pour toutes les compétences de la ville. Je le dis au moment du vote du budget, moment essentiel pour demander, et j'ose dire même exiger, car je reste un militant écologiste au sein de votre majorité, monsieur le maire, exiger que dans nos arbitrages, les enjeux économiques soient au même niveau que les enjeux écologiques et que le climat. Je vous remercie.
Merci.
Oui, monsieur le maire, donc avec mon collègue René Darbois, nous nous suivons et c'est vrai, quitte à vous faire sourire et même quitte à vous fatiguer parfois, eh bien, nous nous répéterons tant qu'il le faudra parce qu'effectivement, il y va de l'avenir. Et même si c'est difficile à mesurer immédiatement dans le cadre d'un budget municipal qui est présenté, nous estimons, comme il l'a dit, que l'empreinte de l'écologie, l'empreinte qu'on nous demande aujourd'hui au niveau national, au niveau international, n'est pas suffisamment prise en compte. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au niveau de l'opposition, ils n'en ont absolument pas parlé. Alors, ils sont dans leur rôle, on attaque tous azimuts. Bon, peut-être on l'a fait aussi lorsqu'on était dans l'opposition. C'est facile, la critique est facile, mais là, par contre, les excès qui viennent de l'extrême droite, où on continue à semer la suspicion dans les esprits, où on voudrait faire croire que cette majorité jette l'argent par les fenêtres ou fait des mesures incroyables. Cette suspicion-là, à un moment donné, est inacceptable. Et je crois que nous sommes tout à fait solidaires de notre majorité parce que je crois que ce budget est responsable par rapport à la gestion des deniers publics. Donc on ne s'associe absolument pas, même si on estime qu'il n'y a pas suffisamment l'empreinte de l'écologie, on ne s'associe pas au concert des pleureuses. Et surtout, on n'a pas envie d'entrer dans une bataille politicienne, parce que je crois que les urnes nous l'ont montré, nos concitoyens l'ont montré, ils en ont plus qu'assez, plus que par-dessus la tête de ces batailles. Ils demandent à ce que nous soyons responsables, à ce que nous répondions à leurs demandes. Alors, est-ce que ce budget répond à leurs demandes? Eh bien, je crois qu'il faut saluer le plan d'économie, et puis je reprends les termes, qui garde un haut niveau de service pour les médecins. Je crois que c'est ça ce qui est important, c'est que nous ayons tous à l'esprit, tous envie de garder ce haut niveau de service, tout en réduisant évidemment le train de vie. Parce que nous sommes profondément pour la sobriété. Et lorsqu'on réduit un train de vie, eh bien on entre dans la sobriété. Alors est-ce que c'est ça aussi la part de l'écologie? Peut-être, ça ne s'appelle peut-être pas encore comme ça, mais c'est sur la bonne voie. Alors je ne reprendrai pas ce qu'a dit René Darbois sur la COP21, mais il faut le rappeler, dans l'accord que j'ai ici, dans l'accord, nous les collectivités, nous sommes mentionnés pour la première fois. Nos collègues français des collectivités locales ont réussi à nous intégrer dans l'accord. Et l'accord nous invite à amplifier les efforts et à appuyer les mesures destinées à réduire les émissions ou à renforcer la résilience. Donc aujourd'hui, nous avons des outils, nous le savons. Donc nous sommes également responsables par rapport aux générations, à nos enfants, pas aux générations futures, à nous-mêmes, nos grands-parents, à nos enfants. C'est pour ça que nous insistons sur le fait que nous devons pouvoir mesurer notre empreinte écologique pour orienter, je ne dis pas réorienter, mais pour orienter nos politiques, pour pas qu'on se plante tout simplement. Nous le savons aujourd'hui, il y a le gaspillage possible, mais aujourd'hui il y a cette responsabilité. Cette responsabilité passe par le budget et j'espère, monsieur le maire, que nous arriverons en fin d'année 2016 à mesurer notre empreinte pour savoir si nous avons été dans la bonne direction ou s'il faut influer dans une autre direction. Je vous remercie.
Merci, madame.
Monsieur le maire, chers collègues, de nouveaux efforts sont nécessaires de la part de notre collectivité pour nous adapter aux contraintes financières qui sont celles de notre pays. dont la dette atteint plus de 2 milliards d'euros et qui augmente de 2600 euros chaque seconde. L'ensemble des collectivités doit faire un effort sans précédent pour ralentir, puis inverser cette courbe infernale qui ruine le fondement de notre République, la solidarité nationale, et réduit les initiatives. Ce qui est vrai, bien sûr, au niveau national, l'est aussi au niveau local. Deux politiques sont à engager et amplifier. Prendre les mesures propres à relancer ou à réorienter notre dynamique économique. La transition écologique et la culture de l'innovation sont deux pistes prioritaires. Localement, nous devons poursuivre la politique d'accompagnement de cette innovation et l'accueil des acteurs économiques et touristiques. Il nous faut mobiliser tous les acteurs de la cité vers un même objectif clair et une feuille de route partagée. Engager enfin un vrai et visible management de la conduite du changement dans les services de la ville. En effet, pour une grande part, les efforts budgétaires qui ont été faits et qui sont réels portent plus sur l'assèchement des budgets et une forte pression sur les effectifs, ce qui est pour partie nécessaire, mais aussi trop souvent un réflexe hérité d'une culture de l'entreprise déjà désuète. Nous devons aussi conduire une vraie politique du changement pour remettre à plat tous les processus de décision et de réalisation. Cela doit être une priorité de l'ensemble du management de la ville, mais aussi des élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Ne pas faire ce travail de révision ou de révolution des processus, c'est à terme totalement démobiliser les personnels et casser l'outil de valeur ajoutée que représente l'ensemble des services et des personnels municipaux qui y sont attachés. C'est aussi fragiliser la mutualisation qui arrive pour l'agglo. Sanctuariser dans ce contexte les budgets de l'éducation, de la petite enfance, de la culture, sans un travail sur les processus et les objectifs opérationnels à atteindre, n'est qu'un vieux pieu qui devra être revu tôt ou tard de toute façon. Nous sommes solidaires de cet effort de ce changement, donc nous voterons ce budget, mais nous voulons que la conduite de changement en devienne, en courant 2016, le fil rouge.
Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, entre le DOB, dont nous avons débattu le 27 novembre 2015, et le budget primitif 2016 que nous examinons aujourd'hui, deux événements majeurs ont eu lieu dans notre pays. Le premier événement, effectivement, c'est la COP21, il n'y a pas que les écologistes qui peuvent en parler, qui vient de s'achever le 12 décembre avec un accord finalement signé par les 195 délégations. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'enjeu climatique réunit les consciences scientifiques du monde, les chefs d'État et de gouvernement, les maires, reconnaissant ainsi la nécessité d'une gestion planétaire de ce bien commun. Cependant, si les enjeux sont planétaires, il n'en demeure pas moins que les solutions sont dans les territoires, portées par les collectivités, aux côtés des acteurs économiques et sociaux, avec les citoyens. Bien entendu, nous nous sommes engagés depuis des années dans des démarches de développement durable, comme l'agenda 21, qui a permis de faire émerger des projets innovants et de mieux prendre en compte les enjeux de développement durable dans nos politiques publiques. Je pense que nous l'avons pu le remarquer à travers de nombreuses actions dans le bâtiment, dans le transport, dans l'éducation.
Monsieur Thiel, s'il vous plaît, si vous voulez bien ne pas distraire Madame Zimmermann qui voudrait écouter Madame Bory. Parce que effectivement, Madame Zimmermann avait raison, il y avait un brouhaha, et donc Madame Bory est en train de parler, Madame Zimmermann voulait l'écouter. Voilà.
Avec un mix énergétique ambitieux porté par notre entreprise municipale d'énergie, l'UEM, et ses filiales. Et voilà, et ça c'est déjà beaucoup d'actions, mais il est donc essentiel de continuer, d'amplifier dans les années qui viennent et d'œuvrer politiquement pour que notre ville soit encore plus vertueuse dans ce domaine, mais je sais qu'on le fera. Le deuxième événement, c'est les élections régionales, et qui a ça est beaucoup moins satisfaisant que l'accord de la COP21, et en tout cas porteur de nombreuses interrogations pour la gauche et les défenseurs de la République. Avec ces résultats, les valeurs républicaines sont de nouveau affaiblies face à l'idéologie de l'identité, à la montée en puissance des idées de rejet, d'intolérance et de discrimination. Mais derrière ces résultats, je peux parler, je ne vous ai pas interrompu, mais derrière ces résultats, il y a avant tout de l'angoisse, de grandes souffrances sociales, le chômage et la précarité qui nécessitent à notre sens que les choix politiques en matière économique et sociale soient revus. Monsieur le maire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, faire comme si rien ne s'était passé serait une très grave erreur pour l'avenir de notre pays. Aussi, la ville a également le devoir de se saisir de la lutte contre le chômage et contre toutes les formes de précarité. Le nombre de pauvres augmente à Metz et les quartiers identifiés politiques de la ville sont de plus en plus nombreux. Bien sûr, nombreux. Enfin, il y en a plus, quoi. Voilà. Bien sûr, nous le faisons dans ce budget 2016 en augmentant les moyens du service emploi et insertion de 24,5% et en préservant les subventions allouées aux associations de proximité dans le cadre du contrat de ville. Face à la crise de la construction, le soutien à l'investissement productif est aussi un levier fort de maintien et de création d'emplois dans notre ville. Nous le maintenons à un niveau de premier ordre. Mais peut-être pourrons-nous réfléchir de nouvelles formes de partenariat avec les autres collectivités de notre territoire et notamment la nouvelle grande région à Cal. Tout doit être fait pour lutter efficacement contre le chômage et non contre les chômeurs, mal qui gangrène notre société et favorise la montée des extrêmes. Monsieur le maire, de même, je mets en garde contre la satisfaction statistique et comptable de voir les dépenses de fonctionnement diminuer. Derrière ces chiffres se cachent des réalités sociales des usagers qui pourraient voir le périmètre du service public diminuer, réalité aussi sociale des plus de 130 postes que nous ne remplacerons pas dans les prochaines années au sein de la mairie et qui vont s'ajouter aux autres pertes d'emplois dans le secteur privé. Alors, monsieur le maire, malgré cette mise en garde, ce budget affiche la volonté d'apporter les réponses aux défis de la situation et aux besoins de notre population. Et c'est pour ça que, et c'est pour cette raison que Gilbert Krosner et moi-même voterons ce budget. Merci.
Monsieur le maire, chers collègues, c'est une période bien triste que nous connaissons dans notre pays. Et cette année 2015 aura été terrible. C'est dans ce contexte que la semaine dernière se sont déroulées des élections régionales que nous pouvons qualifier de tendues. Et je pense qu'il s'agit là d'un euphémisme. La crise démocratique est à nos portes, s'il vous plaît. La crise démocratique est à nos portes. Et vous pourriez vous dire que mon intervention n'a rien à voir avec le sujet. Bien au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, plus que des incantations stériles, il convient de questionner l'ensemble de nos pratiques et changer nos habitudes pour plus de retenue, de tolérance, de respect et de transparence. Lors de mes vœux 2015, j'invitais d'ailleurs déjà à ce que nous nous concentrions sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Je crois que la situation nous l'impose à présent. Et le vote du budget est toujours l'occasion de clivages, parfois d'outrances, de caricatures, voire de propos diffamants. Aujourd'hui, ne devrions-nous pas nous obliger à des débats sereins et à un exercice démocratique digne? Je précise que je trouve que le Conseil municipal, aujourd'hui, est à la hauteur, jusqu'à maintenant. Loin de moi la volonté de donner une leçon à qui que ce soit, j'appelle aujourd'hui à ce que chacun d'entre nous questionne ses propres pratiques. Car nos attitudes sont nos planches de salut. Nous avons nos différences. Mais la radicalisation de la parole politique est-elle un exemple à suivre? Et chers collègues, j'espère que nous saurons être à la hauteur des enjeux démocratiques si nous voulons le meilleur pour notre pays, et je ne doute pas une seule seconde que ce soit ce qui nous rassemble autour de ces bancs, de quelque côté que ce soit. Pour revenir au budget, je veux aussi attirer l'attention sur la situation budgétaire qui s'impose à nous tous. Avec une baisse de la dotation globale de fonctionnement, les collectivités vont encore devoir s'imposer un effort que nous n'imposons pas forcément de la même façon à tous les champs institutionnels. À terme, ces économies sont des choix politiques, certes, mais le risque à terme sera le recul de nos politiques publiques. L'état d'urgence et les interventions militaires contraignent l'État à mettre fin à la recherche d'équilibre budgétaire. mais je ne souhaiterais pas que les collectivités se voient davantage contraintes qu'elles le sont actuellement. Il faut permettre aux villes de continuer à investir et à financer des politiques publiques à dimension humaine, ce que nous arrivons encore à faire à Metz. Les collectivités ne doivent pas, demain, devenir les courroies d'ajustement des comptes publics de l'État. Pour participer à cet effort pour le budget de l'État, des choix difficiles s'imposent à travers une rigueur qui n'en porte pas le nom. Je ne prendrai qu'un seul exemple pour illustrer cette difficulté. Avec les bourses au permis de conduire que nous avions mis en place dès 2009, nous avions pris la décision de sortir de nos compétences obligatoires pour aider des jeunes en situation de décrochage à passer leur permis de conduire. Aujourd'hui, ce genre de dispositif est d'autant plus pertinent car il avait pour objectif de soutenir l'insertion professionnelle des jeunes tout en les incitant à s'engager pour la collectivité bénévolement dans les associations. Je comprends ces choix, mais je crois que les choix futurs risquent d'être encore plus difficiles. Comme l'a signifié Daniel Bory, pouvons-nous nous réjouir des dépenses qui diminuent ? A priori, oui, mais sans oublier que chaque dépense représente des dispositifs qui répondent aux besoins des médecins et que ces choix ne sont ni anodins ni indolores. Je vous remercie.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, alors moi je vais changer un petit peu de registre par rapport à tout l'auditoire jusqu'à maintenant. Ce que je souhaitais dire, c'est que il est notoriété publique que je suis agent de l'État et ce qui apparaît comme une révolution aujourd'hui pour les collectivités locales est un quotidien pour l'État depuis de nombreuses années. Et pour ma part, j'ai mis en place un certain nombre de budgets modificatifs et je voulais témoigner aujourd'hui sur la qualité du travail qui avait été fourni par l'ensemble des services et des élus sur ce budget. Parce qu'il n'a jamais été caché par le maire et l'équipe municipale que la priorité du mandat, c'était la jeunesse, la petite enfance, la culture. Et on a parlé aussi des grands investissements qui structurent notre activité économique. Mais nous avons voulu maintenir l'ensemble des engagements qui avaient été proposés pour le mandat avec un haut niveau d'exigence. Alors la méthode, elle a été extrêmement rigoureuse. Le budget a été établi avec professionnalisme, avec rigueur. Il n'y a pas eu de tabou dans son élaboration. Il n'y a aucune solution qui n'a été écartée. Et j'avoue que j'ai jamais vu un budget d'une telle qualité et aussi responsable, notamment pour la gestion des deniers publics. Donc ça, ce témoignage, je voulais l'apporter. Et rapidement, je voulais apporter le témoignage de l'adjointe Espace Vert que je suis, parce que vous ne le savez sans doute pas, mais sur notre budget à nous, puisqu'on ne faisait pas partie des priorités du mandat, c'est quand même 10,6% de notre budget qui était amputé, sachant qu'on a quand même un budget de 8,4 millions, dont 6,9 millions en frais de personnel. Et une réduction d'une telle ampleur ne peut se faire sans supprimer des postes. Mais nous avons voulu effectivement rationaliser ces suppressions de postes, et ce ne sont que des départs en retraite qui n'ont pas été remplacés. Par ailleurs, pour diminuer les coûts de fonctionnement au quotidien, il a fallu se réinventer chaque jour. Et comment faire ? Ça a été travailler avec l'ensemble des équipes au quotidien pour optimiser à la fois leur outil de production, définir des actions en permettant d'améliorer leur productivité et aussi réduire la pénibilité de leur travail. Donc ça a été aussi l'achat de matériel un petit peu moderne pour que la pénibilité soit diminuée. On a supprimé un échelon hiérarchique, donc la ville de Metz, ce n'est pas une armée mexicaine. Il y a beaucoup d'agents qui font de l'entretien, mais ce n'est pas une armée mexicaine. On a aussi mis en place la gestion différenciée des espaces que vous connaissez depuis longtemps, mais plus de fleurissement naturel, c'est aussi plus de respect pour l'environnement. René Darbois et Marianne Isler-Béguin parlaient de la COP21, on est en plein dans cette perspective-là, avec une politique de mise en œuvre de zéro phyto depuis 2009. On a 8 ans d'avance sur les plans nationaux, il faut quand même ne pas l'oublier. On a permis le retour de la nature en ville. On conçoit maintenant différemment les espaces pour limiter les coûts d'entretien. On a poursuivi et développé des opérations de mécénat. Je rappelle que les grandes animations de l'année qui avaient disparu les années précédentes, l'art dans les jardins, le jardin éphémère, place de la Comédie, et on a fait un jardin de printemps en avril, ont été entièrement financées par des opérateurs privés et non pas par les médecins. On a aussi travaillé sur la refonte des jardins familiaux, mais j'y reviendrai un peu plus tard. On a optimisé notre patrimoine avec un regroupement des aires de jeu, avec une optimisation de tous les équipements, notamment les bancs, etc. Et maintenant, nous participons très en amont sur l'ensemble des projets pour mutualiser. Par exemple, dans le cadre du projet En Rue de Borny, on travaille sur la mise en place d'un projet d'agriculture périurbaine. Et ça, c'est extrêmement important. On a toujours eu ce grand niveau d'exigence et de développement. On a continué à développer des actions pour créer du lien social. On reviendra sur les jardins familiaux et sur les animations qu'on a menées. En matière d'écologie urbaine, on a mené des actions pour lutter contre les incivilités. Et tout ça en maintenant un haut niveau de qualité de fleurissement qui a été encore reconnu par le jury du Conseil national des villes et villages fleuris qui est venu récemment et qui a confirmé ce label. On a vraiment un haut niveau de service aussi avec des animations qui sont plébiscitées par tous les médecins. Donc maintenant, je vous mets au défi de dire que ce budget n'a pas permis de maintenir un cadre de vie et un niveau de vie à un niveau exceptionnel et qui participe tous les jours à l'attractivité de notre ville. Et nous poursuivrons ces engagements en 2016 et en 2017. Donc je souhaite que nous n'oublions pas ces éléments-là. Il faut se réinventer chaque jour et ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent qu'on fait moins bien.
Oui, merci Monsieur le maire. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Béatrice Agamemnon, je considère effectivement que ce budget 2016 est un budget à la fois courageux, solide et utile. Courageux parce qu'il repose quand même sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Comme l'a souligné Béatrice, chacun des pôles et des services se sont en effet engagés dans une démarche de transparence et de solidarité pour réaliser des gains de productivité. Ils l'ont fait, c'est pas facile, dans le respect de la volonté politique des élus, qui effectivement ont souhaité préserver l'action publique pour la petite enfance, pour l'éducation et pour la culture. La maîtrise de la masse salariale, dont la dépense représente 54% du budget, est un des points forts de cette stratégie d'adaptation au nouveau contexte financier. J'y reviendrai. Mais c'est aussi un budget solide qui prépare l'avenir en investissant, et on l'a dit déjà largement, dans des équipements qui renforcent notre attractivité. On a parlé du centre des congrès, de TCRM Blida, de la rénovation du plateau piétonnier. Et puis, ça reste un budget utile, car je l'ai déjà dit, la dépense publique est vertueuse quand elle permet la mise en œuvre d'un service public. C'est la rénovation des écoles, c'est la future médiathèque, la crèche de Borny, le plan scolaire numérique. Mais revenons sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et particulièrement celle de la masse salariale. Alors bien sûr, je ne rentrerai pas dans des détails parce que d'abord, il s'agit de prévisions dont certaines, d'ailleurs, peuvent être soumises réglementairement à l'avis des représentants du personnel. Et je ne souhaite pas mettre en danger l'employeur qui pourrait se voir accusé d'entrave syndicale. Ce que l'on peut dire sur ces objectifs d'économie, n'en déplaise d'ailleurs au président de la commission des finances. 150 postes sur 4 ans, c'est beaucoup. Pour vous donner un autre exemple, Lyon, c'est un peu moins, sur la même échelle de 4 ans, mais avec 4500 fonctionnaires. Ces économies se feront à 59% sur des départs en retraite. On vient d'en donner un exemple pour 2015. 18% sur des fins de contrat et 20% sur du redéploiement. Le reste, c'est effectivement, comme ça a déjà été dit, des économies sur les heures supplémentaires. Le fait, par exemple, qu'en 2015, on a 30% d'emplois saisonniers en moins. Si l'on regarde l'effort aujourd'hui, quand on regarde l'effectif des agents municipaux, 80% sont de catégorie C, 13% de catégorie B et 7% de catégorie A. Or, quand on examine les économies faites en 2015, c'est 23% sur les catégories A, donc bien au-delà de ce qu'ils représentent dans l'effectif. Donc dire que les efforts sont faits uniquement sur les catégories C, sans toucher aux catégories A, c'est faux. Chacun a fait des efforts, c'est bien ça que cela veut dire, que cet effort est important, qu'il ne peut être minimisé, car cet exercice de maîtrise est difficile pour tous, et pour tous ceux, et ils sont nombreux parmi les agents, qui sont attachés à un service public de qualité. Donc je pense qu'il faut les en remercier.
Madame Cossic, dernier orateur inscrit, monsieur Descadir.
Oui, monsieur le maire, chers collègues, j'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention et notamment notre opposition. Et je vous promets que parfois c'était pénible, hein, je vous rassure, madame Zimmermann, c'est à minima réciproque. Je sais que votre mission est difficile. J'ai la chance de ne pas encore connaître ce métier important d'opposant. Peut-être que je le connaîtrai un jour. C'est l'esprit de la démocratie. Mais en tout cas, je peux vous dire que entendre durant de longues minutes des leçons qui nous sont faites, parfois venant de certains qui se croiraient dans un amphithéâtre d'université et qui se croiraient devant leurs étudiants. Ici, on est dans un conseil municipal, donc on n'est pas là pour prendre des leçons, ni dans un sens, ni dans un autre d'ailleurs. Souvent d'ailleurs, des leçons de gestion, permettez-moi de vous le dire, complètement déconnectées des réalités de ce que c'est que gérer un budget, gérer des personnels, porter des projets, préserver l'intérêt général, etc. Et l'intervention de mes deux collègues précédentes montre parfaitement cet esprit-là. Donc je le disais, vous êtes d'une certaine manière déconnecté de ces réalités de gestion, et puis vous êtes en train parfois d'instrumentaliser les chiffres, de les mélanger, et de tomber pour certains dans une forme de populisme, j'ai pas peur de le dire, des plus détestables, notamment quand vous évoquez la culture. Alors, venant du Front National, on est dans votre posture habituelle du mépris, voire d'une certaine haine de la culture. On le sait, c'est connu. Il suffit de voir les rares endroits où vous gérez, votre comportement vis-à-vis des artistes, vis-à-vis des œuvres culturelles, vis-à-vis de l'art contemporain. C'est du mépris et de la haine la plus détestable. Je le dis ici, c'est insupportable. Et sur ce terrain, on vous combattra à chaque instant, parce que oui, nous avons fait de la culture une priorité et nous en sommes fiers. C'est toute la différence entre vous, en effet, qui mettez la culture dans une espèce de comparaison insupportable entre payer sa facture de gaz et la culture. C'est, permettez-moi de vous le dire, détestable une nouvelle fois. Alors oui, nous sanctuarisons le budget de la culture, qui est à 10 millions d'euros. C'est les moyens que nous avons depuis quelques années. Ce budget est en augmentation en apparence pour deux raisons. Je souhaite quand même l'expliquer ici. Parce que d'abord, nous réintégrons dans le budget culture l'ensemble des moyens qui existent pour TCRM Blida, notamment de personnel, puisque comme vous le savez, ça va devenir une association. Et donc tout ceci sera géré via une subvention. Et ensuite, ce budget intègre des priorités politiques importantes que sont, par exemple, le dossier UNESCO, et qui, ici, peut dire que ce dossier n'est pas important et prioritaire. C'est, par exemple, 150 000 euros nouvelles qui sont dans ce budget consacré au dossier UNESCO. C'est 150 000 euros de plus pour le Centre Pompidou, monsieur Thiel. Je pense que vous n'allez pas contredire cette décision. Et c'est ensuite, vous venez de le citer, madame Zimmermann, TCRM Blida, c'est formidable. Et bien, la création de TCRM Blida aujourd'hui nécessite quelques moyens. Il reste modeste par rapport à l'enjeu du projet, mais c'est quand même 70 000 euros de plus. Donc vous faites les calculs, on n'est pas loin de 400 000 euros de moyens supplémentaires mobilisés pour des projets importants sans que le budget de la culture augmente. Donc vous faites le calcul, dans les faits, un effort important est demandé sur la culture, et je vais vous citer quelques exemples, que ce soit sur Mirabel, que ce soit sur Onde-Messine, que ce soit sur Passage, que ce soit sur les subventions aux associations, tous ces budgets-là sont en baisse et un effort est fait et il est important. Après, excusez-moi, je l'ai dit et j'en suis fier, excusez-nous d'être bons et de faire mieux avec moins. Regardez la Saint-Nicolas qu'on a connue le week-end dernier, ça a été une formidable réussite. Vous étiez là à Mirabel, plus de 110 000 personnes, sur Onde-Messine, sur Passage, 30 000 personnes. Et je considère que c'est un élément important de la politique culturelle. Et je ne suis pas, et là je suis en désaccord avec vous, dans une opposition entre le structurel et l'événementiel. Une politique culturelle, c'est un équilibre. L'un nourrit l'autre, et nous sommes dans cet équilibre à Metz, avec des réussites indéniables. Et oui, nous mobilisons y compris nos équipements sur l'événementiel, parce que c'est important de faire de l'or les murs, comme on dit, et c'est ce que nous faisons, et j'en suis fier. Et le résultat est là, le public a le sourire. Et les témoignages sont importants pour dire que le boulot qui est fait est un boulot sérieux. Enfin, je voudrais conclure sur un élément un peu plus général. Ce budget, ça a été dit, est un budget extrêmement sérieux et qui prend en compte les réalités. Faire 5,3 millions d'économies, c'est extrêmement difficile. Alors oui, je le redis, vous êtes déconnectés des réalités de gestion. Parce que si vous avez participé à ces nombreuses réunions où il y a eu des politiques d'évaluation, il y a eu des analyses fines, ligne de dépense par ligne de dépense, vous verrez que c'est un travail qui a été extrêmement utile, pointu et qui donne des résultats. Enfin, je voudrais me réjouir que ce budget marque le départ concret, par exemple, du projet Agora à Metz-Nord, qui sera un élément important pour le quartier, pour ce quartier et pour cette partie de la ville. Ce sera à l'image notamment de la BAM, qui est aujourd'hui une belle réussite. C'est le cas sur le plan numérique, le plateau piétonnier qui va améliorer l'attractivité du centre-ville. Bref, des choix politiques qui vous déplaisent peut-être, mais qui sont là et qui garantissent l'avenir de la ville.
Merci, monsieur Lecadir. Merci à tous, d'ailleurs, pour ce débat. Je voudrais vous dire la façon et l'état d'esprit dans lequel je suis. D'abord, il y a eu un petit échange entre monsieur Toulouse et madame Zimmermann sur les 20% de Thionville. Les 20% d'augmentation de Thionville. Vous savez, je vais vous dire à l'une et à l'autre que on peut toujours trouver des comparaisons chez les uns, chez les autres. Moi, j'avais l'article, je n'avais pas l'intention d'en parler. C'est vrai que ça m'avait frappé quand madame Gromersch avait décidé de ne plus faire payer le parking. Vous savez, elle arrivait et aussitôt, elle a supprimé. Je trouvais que c'était absolument génial comme idée. Et je me disais, bon sang, elle a des réserves financières, elle est à l'aise sur le plan financier. Elle arrive, elle prend la succession d'un collègue qui est monsieur Bertrand Merz, et elle est là, et hop, royalement, elle arrête les parkings le samedi, jour où ça rapporte le plus pour les finances municipales. Et boum, je vois, quelques temps après, alors, si vous voulez, c'est compliqué à évaluer, et pour la dette qu'elle a récupérée, c'est vrai, vous avez dit, madame Zimmermann, à juste titre, que son prédécesseur était socialiste, la dette la plus élevée dans les environs de Metz, c'est la ville de Voipy qui est un de vos collègues sur le plan politique. Donc c'est pour vous dire que tout ça est compliqué et je me garderai bien de vous imputer les dettes de M. Grosdidier ou moi-même de dire à Mme Gromersch qu'elle a eu tort de fermer ses parkings parce que de ne pas les faire payer parce que je trouvais ça une idée géniale. Maintenant, elle est obligée après ça de passer par la case d'augmentation de 20%. Donc, ben oui, non, mais je ne dis rien. Je fais simplement un peu d'humour, c'est compliqué. Les uns et les autres, c'est compliqué. Alors, je vais quand même, Monsieur Aldrin, vous êtes président de la commission des finances, et vous avez trouvé le moyen d'expliquer que certes les dépenses de personnel baissaient, mais que les dépenses de fonctionnement augmentaient. Alors, je vais vous renvoyer dans vos buts parce que Monsieur Thiel vous a déjà répondu, mais ça c'est pas bien entendu. C'était en face comme ça, ça passe pas bien. Je vais vous mettre les points sur les i. Charge à caractère général. On passe, il ne s'agit pas de personnel, hein, de 37 240 000 à 33 360 000. Monsieur Thiel l'avait lu. Et il n'est pas président de la commission des finances. Et, je continue, autre charge de gestion courante. Il ne s'agit pas du personnel. On passe de 29 218 000 à 28 910 000. Si jamais vous connaissez le président de la commission des finances, vous lui demandez de faire un effort pour lire le budget avant de prendre la parole. Et je ne répondrai pas à vos autres interventions. Maintenant, je continue avec Madame Grollet. Madame Grollet qui a déclaré, je l'ai entendu, c'est enregistré, vous avez augmenté les impôts de 10%. Madame Grollet, c'est faux, c'est un mensonge, j'emploie jamais ce mot-là. Je n'emploie jamais ce mot-là. Et je pense qu'il est volontaire par-dessus le marché. Et donc, pas de contre-vérité, pas d'intoxication, je répondrai par le mépris, parce que c'est faux. Alors, je vais vous donner les chiffres, parce que je me les suis fait donner. La taxe d'habitation a augmenté de 4% en 2009 et de 2% en 2010. C'est celle que tous les médecins payent. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, une chose quand même par rapport à une question que vous avez posé parce que ça me permet de répondre. Ce n'est pas parce que j'ai envie de vous répondre, parce que vous avez sorti des âneries, permettez-moi de vous le dire. Mais je vais répondre quand même sur le point qui est important de la société Sanema. La société Sanema a d'abord déposé le bilan, puis après ça est partie à la cloche de bois par une liquidation judiciaire, alors que nous avions donné la délégation de ce parking et même la délégation de la surface de la ville à un autre délégataire. Et je voudrais, et on, au total, on a eu 958 000 euros à recouvrir, qui étaient à la cave, disparus. Je voudrais saluer le trésorier. Il est là ? Il est là-bas. Monsieur le trésorier, je viens vous saluer. Parce que monsieur le trésorier a déployé des trésors d'ingéniosité pour récupérer 388 000 euros. Et ces 388 000 euros sont dans nos caisses. Il les a poursuivis, il a fait évaluer les actions, il a récupéré les actions. Et après ça, il est à la liquidation. Et il a récupéré 388 000 euros. Merci, monsieur le trésorier. Voilà des informations que je pouvais donner par rapport à un fait, un petit fait de gestion courante, mais qui est quand même important. Maintenant, je vais répondre aux autres orateurs parce que... Très bien. Alors, monsieur Wendling... Écoutez, je vais répondre à plusieurs personnes en partant de ce qu'a déclaré M. Scuderi, que j'adore, et qui, en ce moment, est sur tous les médias, parce que c'est le champion de la démocratie participative, et ça passe très bien dans les médias. Et M. Scuderi a dit, j'ai surligné, attention, parce que les dépenses, ça correspond aux besoins des médecins. Et si vous aviez bien écouté ce qu'a dit Mme Agamemnon, elle a déjà répondu. Le problème, c'est qu'il faut qu'on évalue bien les besoins des médecins, et qu'on essaye d'optimiser les dépenses pour satisfaire les besoins des médecins sans forcément dépenser absolument tout ce qu'on pense devoir dépenser, parce qu'on peut souvent faire aussi bien, voire mieux, en dépensant moins. C'est ce que Mme Agamemnon a très bien décrit par rapport aux jardins et aux espaces verts. Alors, il en est exactement comme ça, M. Wendling, du CCAS. Un berceau qui est vide coûte très cher, mais... Oui, non, mais c'était le cas pendant longtemps. Et il est vide. Une chambre dans une résidence du troisième âge, qui n'est pas occupée parce qu'on estime qu'il faut y mettre du linge, parce que ça sert de séchoir, parce qu'on y met des réserves, eh bien, ça s'appelle trois loyers qui ne rentrent pas. Et donc, la gestion, ce n'est pas seulement d'inscrire des lignes en disant « le CCAS dépense beaucoup d'argent ». La gestion, c'est de regarder avec rigueur les services qui sont... à procurer, et effectivement, quand le passe avantage, les gens multiplient des demandes, eh bien, le CCAS suit, mais nous avons beaucoup d'économies à faire, et je peux vous dire que depuis qu'on s'est penché sur les comptes du CCAS, il y a eu énormément de mutualisation de moyens, ce qu'on appelle le back-office, et donc nous avons beaucoup moins de dépenses correspondant à l'ensemble des tâches qui étaient inscrites dans l'ancien CCAS et dans le nouveau CCAS, c'est comme ça. Et je peux vous dire que je vais encore revenir sur M. Scuderi, parce qu'il est devenu une vedette des médias, mais je vais vous dire, à toute modestie, moi aussi, parce que je suis passé, je ne sais pas combien de fois, à la télé. Alors là, trois fois sur France 2, trois fois sur France 2 aux 20h ou aux 13h, deux fois sur TF1 aux 13h, enfin, nous et la ville. Hein. Eh bien ça, je vais vous dire, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Et vous m'envoyez tout le temps, écoutez-moi s'il vous plaît, vous m'envoyez tout le temps... À 2008, le budget de 2008, 1 200 000 euros de budget de communication. 1 200 000 euros de budget de communication. Cette année, on va être à 600 000 euros. Mais j'ai aucun problème, regardez la télé. Ils s'occupent de moi gratuitement. C'est tout bénéfice. On arrive à faire des choses bien plus performantes parce que je reçois des coups de téléphone de partout, de toute la France. Comment fais-tu pour passer si souvent à la télé? Est-ce que tu as mis de l'argent? Je réponds non, on a fait des économies. On a simplement fait des choses qui sont magnifiques. Madame Agamemnon, elle est passée à la télé avec les services des espaces verts. Et on a... Laissez-moi, s'il vous plaît. Et on a, comme ça, à la fois montré qu'on faisait des choses magnifiques dans les espaces verts, qu'on faisait des économies, et qu'on avait moins besoin de dépenses de communication. Du coup, la télévision revient en disant « Comment vous faites pour baisser les dépenses de communication ?» On leur a expliqué. Voilà. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de lien et de cause à effet entre les sommes inscrites et le résultat. Et croyez-moi, c'est ça le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est que les services se sont penchés sur leurs propres pratiques. il y a 25 voitures de service de moins. Permettez-moi de vous le dire. 25 voitures de service de moins. Je vous regarde dans les yeux, monsieur Thiel, parce que souvent on parle de Jadis Naguère. Voilà, mais voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Parce que c'était pas forcément. Alors non, ce n'est pas des voitures qui étaient données aux élus, non, non, pas du tout. Non. Ce sont des voitures qui, voilà, il y a un petit confort, on se met dans la boucle, et puis on avance, puis tiens, j'en aurais bien une aussi, il en a une, etc. Et il y a les petites pressions, et puis un chef de service, on va faire une récompense. C'est comme ça. Et les services ont fait un travail formidable, parce qu'on a même une explication avec les représentants du personnel, et on a démarré sur un certain nombre d'objectifs, et croyez-moi, c'est à eux que je rends hommage, parce que certes, il y avait une volonté politique, mais il y a eu aussi une capacité des services à trouver ce qu'il convenait de faire pour qu'il n'y ait pas une analogie totale entre dépenses et besoins des médecins. Voilà. Alors maintenant, je voudrais donner quelques éléments supplémentaires. Madame Colin Sterlé, qui prend... Vous savez, les 1,6 million de dépenses supplémentaires, on pourrait mettre des gouttées dedans, on peut dépenser toujours un peu plus, mais c'était 40 000 avant, si vous voulez. Quand on compare, il faut faire attention, parce que vous ne pouvez pas nous dire à la fois, il faut revenir au budget de 2009 et nous dire qu'il faut dépenser, c'est-à-dire que tout le monde nous compte. Ah si, Madame, je suis en train de vous répondre poliment, laissez-moi parler. On m'a expliqué gentiment que c'était mieux avant parce qu'il y avait moins de dépenses. Il y a effectivement 1,6 million de dépenses supplémentaires en matière de périscolaire. C'est comme ça. Et moi, je les assume et je les revendique. Et si jamais on veut me ramener à 2009, il n'y aura plus de périscolaire, si c'est ce budget-là que vous voulez. Alors, je suis obligé de vous dire qu'il faut faire attention à une comparaison globale. Certes, un certain nombre de services supplémentaires, avec les dépenses qui vont avec, ont été engagés au fur et à mesure. Mais moi, j'ai pris ma propre succession, si vous voulez, dans l'état où était le budget en 2014. Tout le monde m'en a fait une description apocalyptique. J'essaye de faire en sorte que la ville se comporte le mieux possible par rapport aux moyens qui nous sont donnés. Alors, développement économique et palais des congrès, vous dites que c'est très important. D'autres ont dit qu'il aurait fallu le faire 20 ans plus tôt, c'est Mme Zimmermann. Moi, je vais vous dire, le faire 20 ans plus tôt, sans doute, mais ça, je ne vais pas pleurer sur les renversés, puis je trouve que ce n'est pas la peine de parler trop longtemps en arrière. On passe mon temps à parler de 2009, c'est encore pire. Donc, je ne dis pas ça. Maintenant, on a besoin de tenir notre place, et moi, effectivement, j'ai l'intention que Metz tienne sa place. Et cet effort énorme qui est fait par la ville de Metz, pour aider l'agglo, parce que c'est ça, pour aider l'agglo, parce que l'agglo aussi est en train de dépenser par rapport à ses fonctions et dans des tas de domaines. Eh bien, je considère que, compte tenu des finances dont j'ai hérité, je le dis en regardant ceux qui étaient aux affaires dans les yeux, oui, j'ai hérité de finances qui étaient satisfaisantes sur le plan de l'état des finances, pas sur le temps de l'état des travaux de ceci, de cela, mais des finances. Eh bien, oui, ce palais des congrès, il n'a pas été fait, mais maintenant, je le fais, parce que c'est une nécessité absolue pour la ville, si on veut tenir son rang. Et je le fais avec la donne qui est la mienne. Certes, il y aura un endettement à la sortie, mais cet endettement, il correspondra à une activité économique, c'est-à-dire à des rentrées qui correspondront au fait qu'on pourra ici organiser des congrès dans des bonnes conditions et pas en bricolant dans telle ou telle salle qui gêne la musique, qui gêne le sport, etc. Et donc, je le dis ici avec fierté, j'assume dans le cadre de l'héritage que j'ai eu, évidemment, comme fait Madame Gros-Merch, etc., ou Monsieur Gros-Didier quand il succède à lui-même d'un truc à l'autre. On est tous comme ça, on prend les affaires comme elles sont. Je voudrais maintenant dire à Monsieur Thiel que, sur une de ses remarques, il a raison, les contraintes du gouvernement. Je vais vous le dire, oui, nécessité fait loi, et on s'est mis à regarder vraiment le problème parce qu'on avait des contraintes qui nous arrivaient dessus. Je vous rappelle que le gouvernement actuel envisage 50 milliards d'économies. Les éventuels futurs qu'on voit s'expliquer à l'intérieur de la future primaire à droite, c'est entre 110 milliards et 130 milliards. Ça dépend lesquels. Donc, inutile de vous dire que ce ne sera pas mieux après si jamais ça change. Ce qu'à Dieu ne plaise. Je ne vais pas me dire ce que je n'ai pas dit. Donc, les 50 milliards, je les accepte. Après ça, on dit 11 milliards pour les collectivités locales. 11 milliards pour les collectivités locales. Tout le monde s'en plaint. Et d'ailleurs, Madame Colin-Sterlet, au passage, vous avez noté les 160 000 euros de plus pour la petite enfance. Savez-vous d'où ça vient ? c'est 160 000 euros de moins que le conseil départemental a décidé de ne pas nous donner. Je ne sais plus qu'est-ce qui a parlé de ça, il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Mais en tout cas, on nous supprime 160 000 euros, 100 000 pour nous, 60 000 pour les associations du COGEAM, et on est obligé de compenser si on veut que le service des crèches et de la petite enfance soit là. Donc, tout le monde est touché, le conseil départemental aussi. Le conseil départemental aussi. Et donc, oui, monsieur Thiel, vous avez raison, on a pris le taureau par les cornes sous cette contrainte. Et on s'est aperçu qu'on en avait sous le pied, en fait, pas mal. Et que si je regrette les conséquences pour l'emploi, j'explique à qui veut l'entendre, parce que je sais compter, que l'emploi public n'est pas de l'emploi producteur de richesses, mais producteur de services publics, ce qui est important. Mais si le service public est rendu, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de dépenser un argent qui est inutile. Et donc, je préfère créer de la richesse dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans tout ce qui est des activités économiques, et de prélever, si je puis dire, le moins possible, c'est-à-dire, vous avez vu, il n'y a pas d'augmentation d'impôts correspondants. Alors, j'ai presque fini. J'ai écouté avec soin, comme d'habitude d'ailleurs, René Darbois et Marianne Isler-Béguin, parce qu'ils ramènent toujours le débat à l'essentiel, que moi-même, parfois, j'oublie. Mais pas toujours. Je suis allé faire deux topos à la COP21. Autant on peut être discret ici sur nos performances en matière environnementale, autant il y a beaucoup de gens dans le monde, en France et dans le monde, qui le savent. Vous savez que j'ai déjà fait un voyage à Washington sur le thème, un à Stuttgart, et là, on m'a invité dans des émissions spéciales pendant la COP21. J'ai beaucoup de fierté à vous dire. Il se trouve que j'avais préparé ce graphique pour, non pas par rapport au budget, mais on parle d'activité. 2008, la consommation d'énergie de la ville de Metz. Il s'agit de nous ici, hein, la ville avec nos locaux, notre éclairage, nos voitures, tout. On était à 72,3. Alors c'est des quoi? Je cherche l'unité, je la vois pas. Mais à mon avis, ça doit être des gigawattheures. Et on est maintenant, en 2014, à 59, 72, 59. C'est-à-dire qu'on a fait ici des performances extraordinaires en matière de réduction de la consommation d'énergie. On est bien au-delà de ce qu'on envisage de faire à la COP21. Et j'ajoute que la nature de l'énergie que nous consommons a beaucoup changé, parce que, un, il y a de la production d'énergie, d'électricité verte à l'UEM, et on a de plus en plus de nos filiales. Ça peut être Veolia, ça peut être nous-mêmes, ça peut être Metz Métropole, qui achète de l'électricité garantie, produite sans carbone, avec les éoliennes de l'UEM, avec le champ photovoltaïque de l'UEM, avec la centrale Chaleur Force de l'UEM, avec les trois centrales hydrauliques qui donnent presque rien cette année parce qu'il n'y a pas d'eau sur la Moselle de l'UEM. Tout ça nous permet d'avoir un courant électrique qui est vendu par Energreen, qui est une filiale de l'UEM. Et enfin, par la chaudière à biomasse de Chambière, qui permet, en liaison avec les ordures ménagères, de produire une chaleur qui est à 70% sans carbone. Et donc tout ça, ça compte dans nos comptes. Nous sommes déjà, je vous le dis tout net, à 47% d'énergie sans carbone dans toute la consommation de la ville de Metz. J'avais fait ces calculs pour aller à la COP21, et je vous le dis pour saluer le rappel permanent et obstiné de nos amis écologistes qui nous rappellent le principal, alors que souvent nous discutons de choses importantes, mais pas aussi importantes. Je voudrais conclure en vous disant que cet exercice que nous commençons pour trois ans, est très difficile. Il est compliqué. Il n'a été possible que parce que les services se sont investis. Et je leur tire mon chapeau. Ils nous ont trouvé énormément d'idées que nous n'avions pas imaginées. Parce que c'est vrai que quand on dirige, politiquement, on a tendance à dire, il faudrait faire ça, combien ça coûte? Et on ajoute. Je voudrais terminer en vous disant que je reste sur la même ligne. Et cette ligne, elle sera la mienne, je l'espère, le plus longtemps possible. Une politique publique ambitieuse. Personne ne peut dire que les services publics ont disparu, même quand une école a fermé. ou deux écoles enfermées, ou même quand on téléphone pour aller à une mairie de quartier, aucune politique publique n'a disparu, n'a été affectée. On continue à faire un effort significatif sur l'investissement. C'est vrai qu'il n'y a pas de cagnotte. Mais on vit avec, et puis une partie de nos investissements sont partis à Metz Métropole. Troisièmement, ces investissements productifs sont importants. On a un recours à l'emprunt qui est mesuré. Certes, on peut faire des calculs, mais au bout du compte, on est autour de 300, on va publier dans le prochain Metz Magazine, de 311 euros par habitant. Et pour... Et c'est dans Capital, c'est partout. Hein. Je veux dire que moi, on me téléphone tout le temps, donc celui que je vous dise. Et quatrièmement, oui, mais c'est vrai, mais en même temps, c'est quand même un peu mon boulot ici aujourd'hui. Hein. Et quatrièmement, mais je suis d'accord avec vous, je ne néglige pas tous ces annexes. Et quatrièmement, ben, pas de recours à l'impôt pour la sixième année consécutive sur les taux. Je n'ignore pas. Mais oui, mais écoutez. Les taux, c'est notre levier. Et bon, c'est pas 20%, c'est pas 19%, etc. C'est zéro. Et madame, je ne recours pas à l'augmentation des taux. Eh bien, madame, heureusement, mais enfin, je termine, madame. Permettez-moi de terminer. Il y a beaucoup de collectivités, y compris départementales, municipales, d'agglomérations qui ont recours à l'impôt. Nous avons réussi à réussir cette gageure d'avoir ces quatre fondamentaux qui sont réunis. Et je vous remercie de prendre en compte ce budget tel qu'il est, parce que c'est un budget qui est, à mon avis, tout à fait remarquable par rapport à la donne qui nous était faite. La tentation d'augmenter les impôts en début de mandat est très forte partout, que ce soit à droite ou à gauche. Et me concernant, je suis heureux de pouvoir vous dire que je ne propose pas, comme ça avait été au DOB, d'augmenter les impôts cette année. Voilà, je vais mettre aux voix. Alors, nous avons...
Explication de vote, monsieur le maire.
Alors, on va prendre les explications de vote, bien entendu. Tout le monde va pouvoir donner son explication de vote. Oui, c'est une par groupe, sauf si elle est différente, on est d'accord. Alors... Ah ben ça c'est la règle. Hein. Ah ben ça c'est la règle. Et attendez, les explications de vote, ça, on vote par groupe, c'est quand même normal. Hein. Alors, je rappelle qu'on a deux choses à voter. La première, c'est autorisation de programme et crédit de paiement 2016. Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'explications de vote sur ce thème-là, puisqu'il n'y a pas de demande de parole. Hein, donc, on fera explication de vote sur le point d'après. Donc, qui est contre les autorisations de programme et de crédit de paiement 2016, point numéro 2. Alors, voilà. Toute l'opposition est contre. Ah ben voilà, oui. Vous aviez la tête en l'air. D'accord. Alors, tout le monde est opposé ici. Voilà. Alors, maintenant, on en vient au budget proprement dit, budget 2016. Et donc, je vais demander s'il y a une explication de vote. Alors, par groupe, Madame Zimmermann.
Non. Avant l'explication de vote, j'aurais aimé quand même avoir une réponse de votre part, monsieur le maire, sur la demande que j'avais faite d'une éventuelle mutualisation avec le département, notamment pour la politique des seniors.
Alors, madame, je veux répondre, j'exclus aucune mutualisation avec personne. On le fait d'ailleurs beaucoup avec les fêtes, etc. Le département en fait de plus en plus.
Mais vous faites... non, mais attendez, vous avez des politiques de mutualisation, quand même.
On a mutualisé avec le département, par exemple, tout l'avant-scène, c'est fait avec le département. Il participe
abondamment. Non, mais ne dites pas que vous ne faites pas des... Non, mais je vous ai demandé si vous pouvez l'envisager.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord, mais vous auriez pu me répondre. Merci, monsieur le maire.
Je n'avais pas... Vous savez, il y a eu beaucoup d'intervenants.
Par ailleurs, bon... Pour alors moi et l'ensemble du groupe, nous votons contre.
Merci. Alors, explication de vote du Front National, si vous voulez en donner une. Hein.
Oui, monsieur le maire. Ce débat et le vote que nous allons exprimer expriment finalement la vertu et la pédagogie du vote Front National. Parce que comme à Metz Métropole lundi, chacun y est allé de son analyse sur les élections régionales. J'ai entendu « faisons notre examen de conscience » répondant à la souffrance sociale. Attention aux hausses d'impôts. Alors finalement, tout cela est très bien, avec finalement de votre part à tous une seule peur, une seule motivation, empêcher la montée des extrêmes. Qui peut croire encore, je parle de nos concitoyens, pas du petit monde public qui fait beaucoup de bruit, qui peut faire croire que 6 800 000 Français, que 790 000 habitants de la région, que 9 800 habitants de Metz... seraient des extrémistes ou seraient, c'est peut-être pas mieux, des benêts inconscients qui n'auraient pas exprimé un vote d'espoir en choisissant une force nouvelle. Eh oui, ce n'est pas comme si le Front National n'était pas arrivé en tête au premier tour à Metz et si le Parti Socialiste n'était pas en miettes. Les rageux ne sont peut-être pas là où on croit, mais il fallait le dire avant ça. Alors au terme de ce débat, donc pour expliquer notre vote, je reprendrai vos affirmations. Un recours à l'emprunt mesuré, c'est faux. Plus 60% cette année. Des taux d'imposition inchangés, vous avez lâché le terme, hein, entre la base et les taux, c'est donc de l'enfumage, je n'y reviendrai pas. Si, peut-être pour compléter vos propos, monsieur le maire, vous avez parlé de la taxe d'habitation. Alors, il n'y avait aucune volonté cynique de ma part de manipuler des chiffres. C'était une erreur. En revanche, vous avez bien fait un mensonge par omission en ne parlant pas de la taxe foncière. Plus 2,9% la première année, plus 7% la deuxième année. Vous parlez aussi des moyens consacrés à la solidarité naturellement maintenus, c'est faux, avec la coupe budgétaire sur le CCAS. Pour ce qui est du fameux plan d'adaptation au nouveau contexte financier, vous en avez même fait un acronyme, l'ANCF, c'est tout l'art du paquet cadeau, parce que qualifier ce réflexe d'économie de nouveau, c'est révélateur, c'est finalement malvenu pour ceux qui nous écoutent. Nouveau pour vous, peut-être, pour les collectivités qui ont laissé filer la dépense, pour les gouvernements qui n'ont pas hésité à nous endetter au-delà du supportable, mais les économies, ça n'est pas nouveau pour nos concitoyens. Nous ne voterons pas contre ce principe sain de faire des économies. Cela représente un réel effort, nous en sommes conscients. Mais avant de dépenser moins, il s'agit d'abord de dépenser juste, et là, nous plaiderons pour moins de dispersion, pour une priorité au domaine de compétences municipales, même s'il y a des actions qui sont importantes et bonnes en soi, mais dont nous ne sommes pas responsables. Laissons agir les collectivités compétentes. Et c'est aussi les investissements qu'il faut revoir. La moitié de l'investissement consiste, dites-vous, en équipement d'attractivité. Vous citez le fameux Palais des Congrès, encore un pari plus que risqué. Vous citez, et c'est révélateur aussi, le début de la rénovation du plateau piétonnier comme un investissement d'avenir, alors que pour l'hypercentre de Metz, c'est clairement et depuis longtemps l'entretien qui a manqué. Et de même, pour Blida, il aurait fallu inverser l'ordre des priorités et parler d'abord de l'incubation entrepreneuriale qui, elle, est un investissement d'avenir. Pour conclure, pour toutes ces dépenses, pour toutes ces priorités que nous ne partageons pas, monsieur le maire, nous voterons contre ce budget. Et nous aurons l'esprit de responsabilité, ce qui va éclairer la suite, au cours de l'exercice budgétaire, de voter aussi contre certaines de ces déclinaisons. Car il nous semble important de ne pas afficher des postures politiques lors du vote du budget sans avoir le courage d'en assumer concrètement les conséquences. Je vous remercie.
Merci, madame. Alors, monsieur Aldrin, pour explication de vote pour le futur groupe. Allons-y, désisolé.
Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, je dois en conclure que vous avez été convaincu par ma démonstration puisque vous n'avez pas tenté de la remettre en cause, si ce n'est par un argument inexact. Et je voudrais préciser que, oui, les dépenses de fonctionnement hors charge personnelle n'ont pas baissé. Je l'affirme et je le maintiens. Et vous le savez parfaitement, monsieur le maire. Parce que dans les chiffres qui sont présentés, il y a une opération, c'est la budgétisation du service mutualisé informatique, 3,9 millions d'euros en moins en dépenses, qui va être compensée par des recettes en moins. C'est pour ça qu'on retrouve ces montants indiqués et qu'on ne peut pas les comparer comme tels. Je regrette que le budget n'ait pas été élu correctement par tout le monde, par conséquent. Et qui pourrait croire une seule seconde qu'on revienne à un BP de 33 millions d'euros de charges de caractère général, ce qui serait le montant budgété du BP 2009, lequel BP vous avez indiqué ne pas vouloir revenir et considérer que les dépenses que vous avez faites étaient justifiées. Alors soyons sérieux un instant. Oui, je l'affirme, les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont stabilisées. Elles ne sont pas en baisse, elles sont stabilisées. Donc ce n'est pas le plan d'économie gigantesque, sensationnel qui nous est présenté. Il y a un effort sur le personnel, je l'ai dit. Il y a un dérapage de la dette. Et pour toutes ces raisons, et parce que j'en ai assez de la mise en scène sur la manière de présenter la plus favorable une réalité qui n'est pas celle des chiffres, nous voterons évidemment contre ce budget.
Merci. Alors qui est contre ? Ah, qui s'abstient ? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Le budget est adopté. Je vous demande de rester sur place et de signer tout de suite la feuille d'émargement spéciale budget.